Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'info, votre grand journal jusqu'à 20h avec une pensée pour Wendy Bouchard qui revient très vite et qu'on embrasse fort. Au sommaire ce soir, les mesures renforcées, entrées en vigueur dans quatre nouvelles métropoles pour lutter contre le coronavirus. Et pour la première fois, cette cartographie précise, cette photo détaillée, qui sont les malades types du Covid en France, comment l'épidémie a creusé les inégalités. Gigantesque étude réalisée par l'Inserm, deux des chercheuses qui l'ont menée avec nous pour en parler à 18h15. Une candidature unique à gauche en 2022, chimère ou domaine du possible. Une nouvelle tribune appelle de 1000 élus, militants et personnalités plaide une fois de plus en ce sens. Peut-elle aboutir ? Certains l'enterrent déjà dès cet après-midi. On en débat avec les grandes voix du week-end à 18h30. 19h15, une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron pour l'école dans la lutte contre le séparatisme, le regard sur ce plan de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Il vient de sortir un livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». La culture aussi dans votre grand journal du soir et la musique.
Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît.
Carla Bruni sort son premier album inédit depuis 7 ans. Fabien Lecoeuvre reviendra pour nous sur son parcours et ses rencontres dans une chanson dans la tête. C'est une partie du programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Merci d'avoir choisi Europe 1. Fabienne Lemoyle est avec nous pour le journal. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
Il est 18h sur Europe 1.
Je suis si heureuse et si fière. C'est fou. Il y a deux ans, je gagnais un grand chelem junior et maintenant je suis là. C'était une finale fantastique.
L'exploit de la jeune Polonaise Iga Świątek, 19 ans, à Roland-Garros. Première finale d'un grand chelem et première victoire.
Plus d'un millier de personnes dans le Loiret pour un rassemblement évangélique en pleine crise sanitaire.
Des soignants testés positifs à l'hôpital de Nantes qui continuent à travailler. Rien d'illégal, mais pour les syndicats, ça montre le manque de personnel pour faire face à la deuxième vague.
Et puis la gauche qui se cherche un candidat pour la présidentielle de 2022, je le disais, une tribune pour appeler à une candidature commune signée notamment par l'économiste Thomas Piketty et le réalisateur écologiste Cyril Dion. On est ensemble jusqu'à 20h, bienvenue dans votre grand journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et on commence avec beaucoup d'émotions sur le central de Roland-Garros cet après-midi, Fabienne, pour une finale dames totalement inédite, symbole de la relève du tennis féminin.
Une finale remportée en 2-7, 6-4, 6-1 par Iga Świątek face à l'américaine Sofia Kenin, la jeune polonaise de 19 ans qui n'a jamais douté, Corinne Boulou.
Ah oui, elle n'a pas tremblé, effectivement, Iga Świątek, du haut de ses 19 ans, pour sa première finale en Grand Chelem. Solide dans son jeu, impeccable dans la gestion de ses émotions, même quand il a fallu servir pour remporter cette finale face à une américaine diminuée par une blessure à la cuisse après 1h20 de jeu. Iga Świątek est donc la première polonaise de l'histoire à inscrire son nom au palmarès de Roland-Garros et au moment de soulever la coupe, eh bien elle était submergée par l'émotion.
Je suis si heureuse et si fière, sous les yeux de ma famille finalement. Et c'est fou, il y a deux ans je gagnais un grand chelem junior et maintenant je suis là, c'était une finale fantastique, merci.
Iga Świątek, qui a reçu le trophée des mains de Marie Pierce, dernière française à remporter Roland-Garros il y a 20 ans. Iga Świątek n'était même pas née.
Corinne Boulou qui vous fait vivre ce tournoi de Roland-Garros sur Europe 1, radio officielle du tournoi.
La scène peut paraître surprenante en pleine épidémie de coronavirus quand on se souvient qu'un des principaux clusters de la première vague dans le Grand Est avait été un rassemblement religieux.
Et ça se passe dans le Loiret à Nevoix, un rassemblement d'une église évangélique s'est tenu aujourd'hui avec près d'un millier de personnes. Nicolas Fedman, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, quelques centaines de voitures garées le long d'une route départementale et un peu plus loin, un grand chapiteau. C'est là que se tient en ce moment cette assemblée générale de l'association Vie et Lumière, une association évangélique de gens du voyage. 6 à 700 pasteurs viennent de toute la France pour élire leur nouveau président. Alors la réunion interroge ici, mais le porte-parole de l'association, Joseph Charpentier, l'assure. Tout a été respecté, du gel hydroalcoolique à l'application des gestes barrières.
Nous avons mis en place tout ce système pour assurer la protection des uns et des autres. Nous sommes dans notre bon droit et nous avons mis en place ce qu'il fallait pour cette rencontre et pour ce rassemblement de pasteurs.
Alors le porte-parole de l'association le rappelle, ce rassemblement a bien été autorisé par la sous-préfecture de Montargis, d'une part parce qu'il s'agit là d'un événement non festif, mais aussi parce qu'il se déroule sur un terrain privé. Mais le maire de Nevoix, Jean-François Darmon, ne comprend pas cette décision.
Mon sentiment, c'est de recevoir 700 personnes sur notre commune, dans des conditions, avec les conditions sanitaires actuelles qui posent quand même quelques problèmes. Et alors qu'on nous interdit une manifestation de 30 personnes dans des établissements publics, même légèrement festifs, on va dire. Et moi, je peine à le supporter. Alors, mes propos ne sont pas contre les gens du voyage, bien entendu. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là, on est dans une population qui, par définition, vient de toute la France et va repartir ce soir dans toute la France.
Et le maire de rappeler un autre rassemblement évangélique du même type. Plus de 2000 personnes réunies à Mulhouse, dans l'est de la France. C'était en février dernier et c'était l'un des premiers clusters d'ampleur de cette crise sanitaire.
Nicolas Feldman en direct de Nevoix dans le Loiret. Merci Nicolas. Et pendant ce temps, des soignants testés positifs qui continuent à travailler. Ça se passe au CHU de Nantes.
Là aussi, ça peut paraître surprenant Théo, mais c'est tout à fait légal. Pour autant, les syndicats s'en inquiètent. Pour eux, cela montre qu'on manque de bras à l'hôpital pour les remplacer, vu le nombre de personnes concernées dans les services Charles Guyard.
Oui, jeudi, plus d'une dizaine de soignants en réanimation ont été testés positifs au Covid, tout comme deux médecins exerçant au CHU où le taux d'incidence serait, selon la CGT, supérieur à celui de la population. Les raisons de ce cluster à l'hôpital sont simples. Au fond, le personnel infecté n'est pas isolé chez lui, comme doit l'être un salarié lambda. Olivier Terrien, secrétaire général du syndicat au CHU de Nantes.
On en arrive avec des agents contaminés, qui se contaminent entre eux et qui doivent rester au travail. Sinon, on fermerait des lits ou bien encore on réduirait notre activité.
Une activité maintenue coûte que coûte, donc au détriment de la santé même des soignants, comme David, c'est un prénom d'emprunt. Il travaille dans une unité Covid au CHU de Nantes et le voilà potentiellement entouré de malades du coronavirus. Des patients évidemment, mais aussi et surtout ses propres collègues.
Ça se trouve, j'en côtoie, je le sais pas, et si j'ai Covid positif, je viens pas travailler. Je trouve que c'est irresponsable. On a des patients qui sont déjà fragiles, on a des personnes âgées, donc je comprends pas. Comment on peut nous dire, t'as le Covid, mais tu vas quand même rentrer dans une chambre, t'occuper des gens.
Un fonctionnement pour le moins ubuesque et pourtant validé au printemps dernier par un avis du Haut Conseil de Santé Publique qui permet en effet à un soignant de poursuivre son activité tout en étant en positif si son poste n'était pas remplaçable. Le CHU de Nantes n'a pas répondu à nos sollicitations.
Charles Guyard à Nantes pour Europe.
Et noté après ce journal, la première étude détaillée menée par l'INSERM sur les victimes de la première vague du Covid en France. Les deux chercheuses de l'INSERM qui ont mené cette étude seront avec nous pour en parler. Alors qu'hier, on enregistrait près de 20 000 nouveaux cas en 24 heures. Nouveau record qui intervient alors que depuis ce matin, quatre nouvelles métropoles sont en alerte maximale pour freiner les contaminations.
Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Et première mesure à s'imposer dès hier soir, Pierre Herbulot, comme à Paris et Marseille, bien c'est la fermeture des bars.
Oui, une fermeture sans condition. Impossible désormais de prendre une bière à Lille, un verre de Côte-du-Rhône à Lyon ou un café à Grenoble et Saint-Étienne. Il reste possible en revanche d'aller au restaurant dans ces quatre métropoles, même si les mesures sanitaires ont été renforcées. Depuis ce matin, c'est 6 personnes maximum par table. Tous les clients doivent laisser leur nom, numéro de téléphone et rester assis pour payer. La carte bancaire au comptoir, c'est terminé. Un moindre mal pour Nicolas Gauthier, le chef du bistrot Hergé à Armentières, puisque ça lui permet de rester ouvert.
Je plains et je pleure même pour mon voisin d'à côté qui a un bar et qui a dû fermer ou d'autres établissements à Armentières ou sur l'île. Eh ben, aujourd'hui, on n'a pas envie de ça. Nous, on se tient un carreau, on met tout en place pour que ça se passe bien et que les gens soient en sécurité. Et je pense qu'ils le sont quand ils viennent chez nous. On risque de le payer tous très cher si jamais on nous demande de refermer. Donc, par pitié, s'il vous plaît, tenez-vous à carreau, restez sages, mettez vos masques et tout se passera bien, quoi.
Oui, il faut endiguer la propagation du virus, dit Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, mais pas avec des décisions comme celle-ci, ajoute-t-il dans son rôle d'élu d'opposition.
Il faut que nos concitoyens prennent conscience de la situation et de l'importance de respecter les gestes barrières. Néanmoins, je pense que la restriction des libertés n'est pas forcément la réponse la plus adaptée et la seule. Le président de la République répète à l'envi que nous devons apprendre à vivre avec ce virus. Ça ne veut donc pas dire qu'il faut apprendre à vivre sans les restaurants, sans les bars.
De nouvelles contraintes qui doivent durer au moins 15 jours dans ces quatre métropoles. Leur renouvellement ou pas dépend directement de la vitesse de circulation du virus.
Pierre Herbulot.
Europe Soir Weekend. Théo Manval.
Il est 18h passé de 9 minutes. La suite de votre journal. Il y a une semaine, un véritable déluge s'abattait sur l'arrière-pays niçois, poussant de nombreux habitants à descendre vers le littoral.
Et des habitants qui ont parfois tout perdu, qui ont besoin d'un logement ou simplement d'aide dans leur démarche administrative. C'est pour cela que la métropole Nice-Côte d'Azur a mis en place un centre d'appel avec un suivi personnalisé, Jean-Jacques Herry.
Dans la pièce, deux volontaires de la ville de Nice, chacune face à un téléphone. À chaque appel, les questions posées par les sinistrés sont très différentes, explique Monique.
Le dernier appel que vous avez eu, par exemple, c'était quoi ? C'était un véhicule abandonné sur un parking à Saint-Martin-Vésubie et la personne demande à savoir s'il est possible de récupérer son véhicule.
Cela peut paraître anecdotique à l'échelle des dégâts dans les Trois-Vallées, mais pour beaucoup c'est très important, notamment pour à nouveau pouvoir aller au travail et reprendre un semblant de vie normale. Mais l'urgence, pour le moment, c'est surtout celle du relogement d'urgence à l'hôtel ou dans des appartements. Mélanie Parent, responsable du pôle hébergement.
La grande majorité des personnes, elles ne connaissent pas l'état de la maison, donc effectivement, il est très difficile de pouvoir se positionner en fait sur un retour ou un relogement définitif.
Il y a aussi l'aide administrative, car psychologiquement, tous ces papiers à remplir alors que l'on vient de perdre sa maison représentent une épreuve. Cyrielle est juriste à la maison d'accueil, elle aide les sinistrés à joindre les assurances. Elle leur explique notamment qu'ils ont jusque samedi prochain pour faire leur démarche de sinistre après l'arrêté de catastrophe naturelle. Et puis il y a d'autres démarches à effectuer auxquelles ces interlocuteurs ne pensent pas forcément.
Résilier les abonnements, que ce soit l'EDF, l'eau, les abonnements internet. Et c'est vrai que quand on est sous le choc et qu'on n'est pas chez soi, qu'on n'a plus ses papiers, ça peut être un peu compliqué.
Et en cas de besoin, l'ordre des avocats et deux écrivains publics seront bientôt là pour l'épauler. Nice, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Des rassemblements à travers toute la France, des opposants à la PMA pour toutes les femmes. La PMA pour toutes, mesure phare de la loi bioéthique adoptée par l'Assemblée début août et qui doit être examinée par le Sénat dans les mois qui viennent. Ils étaient plusieurs centaines, notamment à Toulouse, Lille, Rennes, Bordeaux ou encore Paris, place Vendôme. À l'appel du collectif Marchons Enfants au cri de PMA, Macron, ta loi, on n'en veut pas.
On termine avec la politique, Fabienne Lemoyle, et avec cette tribune pour appeler à une candidature commune à gauche pour la présidentielle de 2022.
Une candidature pour une alternative écologiste, sociale et démocratique. Tribune signée notamment par des personnalités comme l'économiste Thomas Piketty ou le réalisateur Cyril Dion. Un appel, Jean-Rémy Baudot, alors que la gauche hésite sur son ou ses candidats.
Oui, des écologistes aux insoumis, tout le monde rêve d'un candidat unique, celui ou celle qui viendrait rassembler la famille, porter un projet alternatif, matinée d'écologie, de social et d'antilibéralisme. Des profils comme ça, il n'y en a pas 50, me confie récemment une figure de gauche. Sauf qu'au-delà des grands principes, au-delà des idées, bien la concrétisation de cette candidature unique, elle est compliquée, car il n'y a pas aujourd'hui à gauche de ligne politique unique, de programme commun. Pourtant, certains s'y voient déjà. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, il était l'invité de BFM TV à la mi-journée.
Si la question est, est-ce que moi je me sens une vocation de candidat commun ? Évidemment, je l'ai déjà été. J'ai été le candidat commun des communistes et du parti de gauche. On ne remonte pas sur la croix de gaieté de cœur. Une campagne présidentielle, c'est terrifiant, de dureté. Moi j'avais prévu de trancher à la fin du mois d'octobre.
Donc début novembre.
Ça va être plutôt ça, oui, compte tenu de ce qu'on a décidé.
Voilà, Mélenchon, le candidat unique pour 2022, pas si simple. Chez les écologistes, on pense avoir désormais suffisamment de poids pour emmener la gauche vers la victoire. C'est le positionnement d'Éric Piolle à Grenoble ou de l'eurodéputé Yannick Jagot, à peine perturbé par la socialiste Anne Hidalgo. Mais là encore, pas si simple. Les personnalités écologistes ont elles-mêmes du mal à se retrouver sur une ligne politique unique. Ça fait 18 mois que Jadot et Piolle ne se sont pas parlé, m'a confié récemment un écologiste. Je vous le disais, la candidature unique de la gauche, c'est pas si simple.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe.
Effectivement, c'est pas gagné. On va y revenir avec les grandes voix tout à l'heure dans une demi-heure. Merci, c'était le journal de Fabienne Lemoyle. On vous retrouve demain 12h30 pour le journal de la mi-journée. Un coup d'œil à la météo.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produit de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
Valérie Darmon pour demain, un temps qui n'aura rien à voir avec celui d'aujourd'hui, hein. Instable à nouveau sur une grande partie du pays.
Tout à fait, c'est simple, c'est seulement autour du golfe du Lion que le soleil va rester généreux, avec un mistral et une tramontane jusqu'à 90 km/h en rafale. Sur la Corse aussi, le ciel sera lumineux avec juste quelques orages l'après-midi. Sur le reste du pays, les nuages qui seront de nouveau très nombreux, qui vont donner quelques ondées passagères, qui pourraient prendre un caractère orageux sur la façade est. Il neigera sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes du Nord au-dessus de 1300 mètres, 1005 sur les Alpes du Sud et vers 1002 sur le Jura ou encore les Vosges. Le ciel clair persiste sur le nord-ouest jusque sur l'ouest du bassin parisien. Les températures fraîches, 4 à 11 degrés le matin, jusqu'à 15 près de la Méditerranée. L'après-midi, 11 à 16 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 22 sur le pourtour méditerranéen et en Corse.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Prochain point à 18h30. Les sports, bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
On démarre bien sûr avec le tennis et on file à Roland-Garros où c'est donc une Polonaise qui a été sacrée cet après-midi.
Oui, du jamais vu pour son pays. Elle s'appelle Iga Świątek, elle n'a que 19 ans, aucun titre sur le circuit avant cet après-midi, 54e mondial. Bonsoir Corinne Boulou.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous.
La jeune Polonaise a largement dominé l'américaine Sofia Kenin, 6-4, 6-1, c'était la quinzaine parfaite.
Oui, tout le monde ici est bluffé hein, par sa maîtrise de cette quinzaine sur terre battue. Dès le premier tour, elle fait tomber la finaliste de l'an passé, la Tchèque Vondrousova. Puis en huitième de finale, Iga Świątek balaye l'une des favorites, la Roumaine numéro 2 mondiale, Simona Halep, 6-2, 6-1. Cela n'a rien d'anecdotique quand on voit aujourd'hui la solidité dont elle a fait preuve pour s'imposer dans cette finale, sa première en Grand Chelem, sans perdre un seul set. Incroyable performance face à la sixième mondiale, Sofia Kenin, certes diminuée, mais quand même. Il y a deux ans, Iga remportait le titre junior à Wimbledon. Aujourd'hui, elle est la première Polonaise à s'imposer à Roland-Garros. Et beaucoup lui prédisent un avenir dans un tennis féminin à la recherche de la nouvelle star.
Merci Corinne, on se retrouve tout à l'heure. Et puis chez les juniors, 11 ans après Kristina Mladenovic, une Française s'impose. Elsa Jacquemot, 17 ans.
Mais bravo à elle.
La Lyonnaise était pourtant menée 1-7-0 et 4-2 par la Russe Sharayeva. Elle l'emporte finalement 4-6, 6-4, 6-2. On écoute sa joie.
Elle inscrit son nom à son palmarès de cette catégorie. Elle est française, Elsa Jacquemot.
Déjà, je voulais féliciter Alina pour son parcours. Elle a fait juste une semaine incroyable. Congrats, Alina. C'est beaucoup d'émotions. C'est vraiment dur de prendre le micro après le match. Je voulais bien évidemment remercier mon coach, ma famille, tout le monde qui me soutient depuis le début. Gagner Roland, c'est un truc de malade, surtout pour une Française. J'ai même pas les mots, mais c'est incroyable. Donc, je suis super contente de la semaine que j'ai passée là. J'ai même pas de mots, mais merci pour toi en tout cas.
Voilà donc Elsa Jacquemot. Et puis demain, c'est la grande finale. Hein. Nadal Djokovic, c'est à 15h.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
On passe au foot, Jean-François Pérez, avec une belle affiche demain soir au Stade de France.
Oui, 4 jours après la démonstration face à l'Ukraine, 7-1, les Bleus reçoivent le Portugal de Cristiano Ronaldo, dans une affiche qui va rappeler fatalement la finale perdue de l'Euro 2016 sur cette même pelouse. Enfin, pour nous, pas pour Didier Deschamps.
C'est bien loin tout ça, non ? Et puis on ne pourra rien y changer de toute façon, donc il n'y a pas à se remémorer. Mais non, c'était ce qui s'est passé il y a 4 ans, bravo à eux, ils ont été champions d'Europe. Ça nous a servi à nous aussi, on connaît l'histoire qui s'est succédée, là c'est des retrouvailles. Voilà, aujourd'hui, quelques joueurs des deux côtés, pas beaucoup de chez nous, je crois qu'il y en a 6 qui étaient présents dans le groupe en 2016, qui sont là aujourd'hui, pour évaluer les forces du moment, puisqu'on se retrouvera évidemment pour le match retour le mois prochain chez eux, et puis... un peu plus tard, en mois de juin aussi.
Non, il ne s'est rien passé il y a 4 ans.
Non, rien du tout, on a tout oublié. C'était Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie. Match demain à vivre en direct intégral, 20h45, le coup d'envoi.
Le reste de l'actualité sportive en bref.
Oui, 2 roues et 4 roues, le festival français au championnat du monde de VTT en Autriche. 3e titre mondial pour Pauline Ferrand-Prévot en cross-country. Et chez les messieurs, c'est Jordan Sarrou qui est médaille d'or. Le Tour d'Italie cycliste, 9e étape, victoire en solitaire du Britannique Dowsett. Arnaud Démare conserve le maillot de meilleur sprinter. Fabio Quartararo, maître à domicile, le Français partira en pole position du Grand Prix de France de MotoGP demain sur le circuit du Mans. Et puis Formule 1, le Grand Prix de l'Eifel en Allemagne aura lieu demain, lui aussi sur le circuit du Nürburgring. Les Mercedes en pole, comme souvent, Valtteri Bottas s'élancera devant son coéquipier Lewis Hamilton.
Qui tentera, si je ne dis pas de bêtises, de dépasser le record de Michael Schumacher, record de victoire. Votre journal des sports complet signé Jean-François Pérez. Merci Jean-François.
Europe Soir Weekend. Théo Manval.
18h18 sur Europe 1, plusieurs dizaines de milliers de personnes interrogées pour une étude absolument gigantesque que vient de publier l'INSERM sur le profil type des malades du Covid-19 en France. Josiane Warzawski et Nathalie Bajos, les deux chercheuses qui l'ont supervisé, sont avec nous dans un instant.
Europe Soir Weekend. Théo Manval.
Vous êtes bien à l'écoute de votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est une photographie qui était très attendue par le monde médical, par les pouvoirs publics et plus largement par tous ceux avides de comprendre comment et qui le coronavirus a réellement frappé en France depuis le début de la crise. Plus de 130 000 personnes interrogées pour la première étude d'ampleur compilée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Étude qu'ont supervisé nos deux invités. Bonsoir Josiane Warzawski.
Bonsoir.
Médecin épidémiologiste à l'INSERM et bonsoir Nathalie Bajos.
Bonsoir.
Sociologue et directrice de recherche, merci à vous deux d'être en ligne avec nous. Le coronavirus a fortement accentué les inégalités sociales, professionnelles, raciales aussi. Ce sont vos conclusions, on va les détailler. Mais d'abord, expliquez-nous un petit peu comment vous avez mené ce travail qui est quand même titanesque.
Alors, je vais peut-être commencer. En
Josiane
fait,
Darzaski.
On a effectivement... Oui, voilà. On a commencé à avoir cette idée juste au début du confinement pour, car il fallait absolument une photographie, une connaissance vraiment de la diffusion du virus au niveau national, au niveau territorial et de façon représentative. Mmh. Et donc, on a monté cette étude dans un temps assez record pour, vu son ampleur et vraiment en accélérant tout ce qu'on peut faire pour que la recherche puisse aller au plus vite avec la bonne grande qualité. Et donc on s'est associé avec nos partenaires de Santé publique France et de l'INSEE pour et de l'ADRES pour monter un échantillon national à partir d'une base administrative de l'INSEE qui couvre 95% de la population, de façon à pouvoir avoir un échantillon
représentatif
qui couvre toute la diversité de la population, mm-hmm. y compris les plus vulnérables.
Les résultats de cette étude concernent donc la première vague au printemps. Sans surprise, c'est dans le Grand Est et en Île-de-France qu'on trouve le plus de personnes frappées par le Covid. Mais quand on fait le portrait robot du malade type du Covid en France, la première surprise à vous lire, elle vient de l'âge. Ce sont les 30 à 50 ans qui ont été les plus touchés.
Oui, c'est ce qu'on retrouve, effectivement. C'est sans doute là que les contacts avec le virus sont les plus nombreux. Ça n'était pas à cette époque, hein, au moment de la... Là, l'étude, elle porte finalement sur l'infection, sur le contact avec le virus entre le début de l'épidémie et la fin du confinement. C'est la population active, celle qui a eu le plus de contacts. Les plus âgés se sont probablement déjà en partie protégés. Ils ont moins de contacts et on leur a recommandé vivement d'éviter ces contacts assez vite.
De rester chez elles et ça a fonctionné.
Et voilà. Et ça a fonctionné.
Les femmes ont été plus touchées que les hommes. Nathalie Bajos, 5% de femmes infectées contre 4% chez les hommes. Il y a une explication.
Alors en fait, effectivement, il y a un taux un tout petit peu plus élevé chez les femmes, mais quand on regarde de manière approfondie, en fait, cette explication renvoie à des positions qui sont un peu particulières d'un point de vue social, notamment en termes de travail. Donc au final, on ne trouve pas une surexposition des femmes par rapport aux hommes dans l'étude EPICOV.
Vous parlez du travail. D'ailleurs, oui, vous parlez de travail justement. Les soignants, le personnel médical ont été particulièrement touchés. Plus de 11% des personnes qui travaillent dans le domaine du soin. 1 sur 10, c'est plus du double de la moyenne de la population.
Alors effectivement, c'est un taux qui est plus du double de la moyenne nationale, qui vous le rappelez à l'instant, est de 4,5%. C'est vrai que les professions de santé ont été très très exposées, ce que montre clairement l'enquête. Ce qu'il faut souligner également, c'est que pour les autres professions, et notamment les professions dites essentielles, hein, toutes ces personnes qui ont été amenées à continuer à travailler à l'extérieur de manière massive au moment du confinement, il faut attendre les résultats de la deuxième vague pour pouvoir donner des chiffres précis, parce que pour l'instant, la taille de l'échantillon qui a reçu un test ne nous permet pas de donner des chiffres précis. Et vous comprenez bien que cette population des personnes qui ont continué à travailler pendant le confinement est extrêmement hétérogène. Vous avez des aides-soignantes, des conducteurs de bus, des caissières, des livreurs, etc. Toute une série de populations très hétérogènes. Et il faut attendre la deuxième vague qui aura lieu, qui commence la semaine prochaine et pour laquelle on aura près de 90 000 tests qui vont être proposés à la population.
Un deuxième volet de votre étude en cours. Josiane Varzavski, Nathalie Bajos, il y a une surprise aussi sur le niveau de vie de ces malades, les personnes les plus touchées. On a beaucoup parlé des travailleurs les plus pauvres, en première ou en deuxième ligne. En fait, on a à peu près la même proportion de malades des deux côtés du spectre, chez les 10% des Français les plus riches et chez les 10% des Français les plus pauvres.
Exactement, et ça traduit différents phénomènes, peut-être Nathalie veut peut-être rentrer peut-être un peu plus dans les détails puisqu'il y a des phénomènes
sociologiques,
d'exposition sociale qui ont évolué, sociologiques qui ont évolué entre avant et pendant le confinement, peut-être Nathalie...
Comment on explique, Nathalie Bajos, que les plus riches et les plus pauvres des Français soient finalement affectés au même niveau?
Oui, effectivement, c'est un résultat qui est tout à fait intéressant et qui traduit, comme le disait Josiane Darzavski à l'instant, en fait, un phénomène de déplacement du profil social de l'épidémie. Et ce qu'on a pu montrer grâce à d'autres travaux qu'on a réalisés également dans le cadre des grandes cohortes épidémiologiques qui ont été menées en France, une enquête qui a été menée dès le mois d'avril, et qui montre qu'en fait, avant le confinement, sont essentiellement les catégories, surtout, je dirais, les catégories sociales les plus favorisées qui ont été en contact avec le virus, des catégories, en particulier les cadres supérieurs qui sont amenés à sortir davantage, avoir de être confrontés à plus d'interactions sociales de par leur travail, les voyages, mais aussi des lieux de socialisation, restaurants, etc., etc., que les catégories populaires. Et quand le confinement a été mis en place, il faut, je crois, rappeler que ça a été une mesure extrêmement efficace du point de vue de restreindre la diffusion de l'épidémie, mais on s'est rendu compte que finalement le confinement a été plus bénéfique à certaines catégories qu'à d'autres, et en particulier plus bénéfique au cadre supérieur qu'aux catégories les plus défavorisées.
Et c'est là que vous montrez que l'épidémie, oui, a creusé les inégalités, et notamment les personnes peut-être les moins à l'aise économiquement sont celles qui ont dû le plus continuer à travailler pendant le confinement et qui donc ont été les plus infectées.
Alors c'est effectivement un phénomène très, très compliqué, hein, vous l'imaginez bien, mais effectivement, comme le confinement a bénéficié davantage aux catégories aisées qu'aux autres de la population, il y a eu une accentuation des inégalités sociales. Peut-être un chiffre pour les auditeurs, pour bien comprendre ce qu'on entend par là. Pendant le confinement, 50% des cadres ont travaillé exclusivement à domicile, alors que ce pourcentage est de 1% pour les personnes qui relèvent du monde ouvrier.
On imagine la différence d'exposition.
Alors c'est un des éléments, c'est un chiffre pour illustrer le phénomène, mais de fait, et c'est un résultat important de cette étude, je crois qu'il faut le souligner, cette étude, elle est épidémiologique et sociologique, et c'est assez rare que dans la recherche en santé publique, on puisse avoir simultanément l'analyse épidémiologique qui permet de décrire très finement ce qui se passe au niveau du contact avec le virus, et une analyse sociologique qui complète et qui permet de comprendre le sens des chiffres qu'on observe.
50% des cadres ont pu télétravailler, 1% seulement des ouvriers, selon votre étude. Une dernière question, simplement en regardant après coup vos résultats, quels enseignements vous en tirez, notamment pour la suite et pour cette deuxième vague qu'on est en train de voir arriver sur la France ?
Alors, justement, on a ces données qui sont au décours du confinement. On va pouvoir, avec la deuxième vague, savoir quelles sont finalement les catégories de la population où l'épidémie progresse le plus, et en tirer des enseignements aussi sur finalement ce qui s'est passé avec toutes les mesures qui ont été prises depuis le début de l'épidémie, pour mieux comprendre ce qui a pu éventuellement agir ou pas agir ou moins bien agir, d'une part. Et d'autre part, on va également pouvoir mieux identifier l'impact de la contamination intra-foyer et des différents facteurs qu'on a mis en évidence. Donc c'est vraiment ces deux points ensemble, la vague de l'état de après le confinement et ce qui va se passer à l'automne, qui va nous apporter des enseignements extrêmement importants pour comprendre ce qui peut aider à agir ou pas agir sur l'épidémie.
Et une étude qui aidera aussi peut-être à mieux orienter les dispositifs d'aide mis en place par l'État. Merci en tout cas à vous deux. Nathalie Bajos, sociologue et directrice de recherche à l'INSERM. Josiane Warzawski, médecin épidémiologiste au sein de l'Institut. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour détailler cette vaste étude inédite et si instructive. Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend. Théo Manval.
Dans un instant, l'essentiel de l'info et cette question, l'union de la gauche à la prochaine présidentielle en France, est-elle possible ? Une nouvelle tribune signée entre autres par Clémentine Autain, Noël Mamère, Thomas Piketty est parue aujourd'hui. Débat et analyse avec vos grandes voix du week-end. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
18h30 sur Europe 1. L'essentiel de l'info à retenir avec vous, Lénaïque Monnier, bonsoir.
Bonsoir, un bond dans les contaminations au Covid un peu partout en Europe comme en France, avec plus de 20 000 cas comptabilisés ces dernières 24 heures. Certains médecins parlent de marée montante. La France qui a donc étendu les restrictions depuis ce matin. 4 nouvelles villes ont basculé en état d'alerte maximale. Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne sont désormais concernés, en plus de Paris, de Marseille et de la Guadeloupe. Les bars n'ont plus le droit d'ouvrir, les restaurants doivent fermer à 22h et tout cela va durer 15 jours. Donald Trump repart en campagne une semaine après son hospitalisation. Le président américain anime ce soir une première réunion à la Maison Blanche. Il ira ensuite dans l'un des états clés, la Floride, ça c'est pour lundi. Le débat entre Trump et Biden en revanche est annulé, il devait se tenir jeudi en visioconférence, ce qu'a refusé le président sortant. Après une matinée de combat, le cessez-le-feu est entré en vigueur dans le Haut-Karabakh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les gens ont convenu d'une trêve après 15 jours de violence. Les deux pays ont accepté d'ouvrir un processus de négociation pour résoudre la crise. Les combats officiellement ont fait 400 morts. Et puis Iga Świątek remporte Roland-Garros. La jeune Polonaise de 19 ans a battu l'Américaine Sofia Kenin en deux manches, 6-4-6-1. Victoire qui a duré moins de deux manches.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. À tout à l'heure, 19h pour le journal La Météo. Valérie Darmon, le ciel s'assombrit pour demain dimanche.
Absolument, avec de nouveau des averses et des giboulées de la Manche et de la mer du Nord vers les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, de la neige, des 1000 à 1200 mètres en montagne. On a une dépression en fait qui se creuse aussi dans le golfe de Gênes, qui devrait s'évacuer assez rapidement par le nord de l'Italie, mais en attendant, qui ramène des orages sur les Alpes-Maritimes, pas sur le reste du pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, ce sera gris, nuageux, voire orageux. Les températures dégringolent, dignes d'un mois de novembre. 11 à 16 degrés pour les maximales du nord au sud et 14 à 19 aujourd'hui. Donc vous voyez, elles baissent encore ces valeurs.
Merci Valérie.
Europe Soir Weekend.
Théo Manval.
Les grandes voix.
Le débat des grandes voix, chaque samedi, chaque dimanche. C'est votre rendez-vous jusqu'à 19h. L'actualité passée au crible avec ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil, et Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du journal Le Parisien. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Une gauche unie pour la présidentielle de 2022. Possible ou impossible, une nouvelle tribune appelant à une candidature commune est publiée aujourd'hui, co-signée par un millier de personnes, des élus verts, insoumis, d'anciens socialistes. Ça ressemble un petit peu à l'Arlésienne, cette union, souvent souhaitée, jamais atteinte. Est-ce que ça peut changer cette fois-ci? Pourquoi ou pourquoi pas? Vos analyses, on en débat. Aux États-Unis, Donald Trump pense ne plus être contagieux sans pouvoir affirmer qu'il a été testé négatif au coronavirus. Interview confuse sur sa santé la nuit dernière et il reprend sa campagne avec une réception dès ce soir à la Maison-Blanche. Votre regard à suivre, chère grande voix, sur cette campagne présidentielle américaine dont les dernières semaines s'annoncent toujours plus incertaines.
Théo Manval. Les grandes voix.
Mais d'abord, comme chaque week-end, en guise d'entrée en matière, vos coups de cœur, vos coups de blues ou vos coups de griffe. Laetitia Krupa, votre coup de cœur ce soir, je crois qu'il s'adresse à une des ministres du gouvernement.
Oui, le coup de cœur pour le chemin de croix de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologiste, qui a passé sa semaine à enchaîner les plateaux pour expliquer que non, elle ne retournait pas sa veste. Non, elle n'avalait pas son chapeau au sujet des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles qui protègent, entre autres, les betteraves de la jaunisse. C'est elle, Barbara Pompili, qui en 2016 s'était battue alors qu'elle était secrétaire d'État à la biodiversité pour faire interdire ces pesticides et la patatras. L'Assemblée nationale fait machine arrière. Conséquence directe, coup de projecteur sur Madame Pompili, qui évidemment a été confrontée toute la semaine à chacune de ses interviews, à ses propos enflammée d'il y a 4 ans. Et elle a trouvé la parade, Barbara Pompili, parce que elle nous explique quoi? Elle nous explique que non, elle ne se trahit pas, car il s'agit juste cette fois d'une autorisation à déroger à la loi pour un secteur particulier.
Ponctuel et précis.
Ponctuel, temporaire. Et qu'en fait, si on l'avait écouté, on aurait pu s'en passer si le secteur avait un peu bossé le sujet.
Et s'était préparé avant.
Et avait trouvé une alternative à ces néonicotinoïdes. L'argument s'entend, mais est-ce que le message est passé? Est-ce que Barbara Pompili n'est pas définitivement taxée de spécialiste de retournement de veste? Parce que vous le savez, Théo, qu'en communication politique, quand on a une affirmation forte, avec une image forte, pour s'en décoller après, même si l'argumentaire tient la route, c'est très compliqué. Donc, la suite, on le verra bientôt. Très bientôt, il me semble.
Et on va la suivre, évidemment. Merci Laetitia Krupa. Philippe Moreau-Chevrolet, coup de cœur, je crois, pour vous aussi.
Oui, coup de cœur pour la revue politique et parlementaire qui vient de publier son dernier numéro qui s'intitule « Une crise sans fin » consacrée à la crise sanitaire. Alors c'est une revue à l'ancienne qui existe en numérique mais qui fleure bon le papier, dont les collaborateurs sont bénévoles, dirigée par Arnaud Benedetti. Donc c'est une revue qui explore ce mois-ci la crise sanitaire sous un angle un peu original sur le thème notamment du déni. Et le déni, c'est quoi par rapport à la crise sanitaire? Eh bien, c'est le point commun qu'il y a entre Bolsonaro au Brésil, Johnson en Grande-Bretagne, Trump aux États-Unis et Macron en France, dans des styles différents. Ça consiste à nier au début la réalité de l'épidémie et aussi sa dimension sanitaire. Pour parler d'autre chose, pour parler de guerre, pour parler d'affrontements entre les démocrates et les républicains quand on est Donald Trump, mais ça n'est jamais vraiment un virus qu'on combat, c'est autre chose. Ça explique notamment le point commun à tous ces pays qui sont le refus du masque au départ et puis finalement son adoption, mais très très réticente par les chefs d'État. Dans le cas de Bolsonaro, Johnson et Trump, il y a eu des conséquences plus dramatiques puisque les trois présidents ont été atteints du Covid et que le dernier est toujours atteint du Covid.
Et puis, dernière nouvelle, oui.
Oui, aux dernières nouvelles, et on va en parler, mais ça explique aussi le refus de la distanciation. Hein. On sait que jusqu'au bout, Donald Trump, alors que probablement il se savait déjà malade, il a enchaîné les événements, donc il y a un événement super spreader, comme on dit, qui a beaucoup répandu le virus. Et il y a des séquelles de tout ça, puisqu'on voit que les hommes politiques ont vraiment, vraiment du mal à accepter finalement cette épidémie. Donc Frédéric Vidal, la ministre aux universités, qui réunit cette semaine tous les présidents d'universités de la région Aquitaine, sans masque, alors que les universités sont parmi les plus gros clusters en France.
Et qu'on leur demande de vider leurs amphis de moitié.
C'est ça. Donc là, ils se réunissent sans masque. Alors, il y a des assiettes devant eux. Donc la réponse de la ministre, c'est oui, mais on allait manger. D'accord, mais ça n'empêche pas que c'est une réunion politique qui dure 3 heures et qu'on est dans un espace clos et voilà, et que ce sont des présidents d'université. Roxa Maracineau, qui est la ministre au sport, a légalisé le MMA. C'est un sport de combat extrêmement violent. Alors, personnellement, moi, j'ai rien contre. Hein, je suis fan de boxe anglaise. Pas de souci. Sauf que elle a légalisé tout ça dans un amphi surchauffé avec 1000 personnes sans distanciation et que les sportifs sont venus lui faire littéralement des gros câlins. Donc, ouais. C'est évidemment pas la séquence qu'on souhaitait voir. Et pour finir cette semaine, parce que chaque semaine apporte son lot de bêtisiers, Jean-Baptiste Lemoyne, ministre du Tourisme, qui dit qu'il est urgent de partir en vacances. Donc, à un moment où on a quand même 20 000 contaminations par jour, une mortalité qui monte, des hôpitaux qui sont au bord de l'apoplexie alors qu'on ne fait que commencer la crise, c'est un petit peu embarrassant. Alors pourquoi ? Parce qu'il serait intéressant de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Eh bien probablement parce qu'ils ont du mal, aussi bien dans la crise climatique que dans cette crise sanitaire, à accepter que la nature, parfois, impose sa volonté aux politiques. Ils ont du mal à accepter que finalement c'est elle qui décide quelque part de la suite des événements. Ce sont des leaders qui, plus la défiance augmente, plus ils vont essayer de vendre de la volonté ou de survendre de la volonté. Mmh. Et là, il faut avoir de l'humilité par rapport à la nature et nos hommes politiques ne sont pas vraiment équipés pour ça. Alors peut-être qu'il serait temps, Théo, d'écouter la nature, tout simplement.
Et puis de prendre un petit cours peut-être en communication politique parce qu'effectivement, en termes d'affichage, tout ça n'est quand même pas fameux. Yannick Halimi, on termine avec vous cette première partie. Vous, c'est un coup de gueule ce soir, Yannick.
Oui, alors plus rapidement et un coup de gueule également qui a un lien avec la crise sanitaire, c'est l'autorisation donné à des évangélistes de se réunir ce week-end à 600 ou 700 pour finaliser une démarche administrative qui est la leur. Alors que les choses soient claires, je n'ai évidemment aucune volonté de stigmatiser les évangélistes en tant que tels. Le problème, c'est que le maire de la petite commune
de Neuvois dans le Loiret,
exactement dans le Loiret près de Montargis, a appris ce rassemblement par une lettre, un courrier envoyé par le sous-préfet qui n'était pas au courant et que lui, à qui on dit de mettre en pratique et de faire respecter des mesures de réunion publique ne dépassant pas la jauge d'une cinquantaine de personnes de mémoire, en tout cas ce qui concerne son territoire, évidemment, est tombé de sa chaise. Donc,
quand il a appris qu'on avait 1000 personnes sur un terrain 1000. Privé.
Bon, j'avais et donc, un peu moins de 1000. Alors, les justifications de la préfecture et des organisateurs de ce rassemblement, c'est de dire que, un, ce n'est pas dans un espace public.
C'est donc, un terrain privé qui appartient à une association.
C'est un espace privé qui appartient à une association. Et deuxième élément, encore bon, qui est peut-être plus saugrenu, c'est que cette manifestation, comme je vous le disais, avait un lien avec une démarche administrative au sein de l'association. L'autre argument juridique qui se veut fondé de la part du préfet, c'est de dire que ce rassemblement n'avait pas une cause festive. Mmh. Donc, fermer le banc. Apparemment, là, ça compte première problématique, et je passe à la seconde très rapidement. Il y a une sorte de lisibilité tout de même des règles sanitaires qui semblent un peu compliquées
là
à exercer
flou,
pour
oui.
L'œil moyen que nous sommes tous, y compris, semble-t-il, pour le maire de la petite commune. Mmh. Et deuxièmement, cela prouve aussi entre les relations entre le maire, le sous-préfet et le préfet, que là, encore une fois, on touche un des points névralgiques de la crise sanitaire au-delà de la santé, de l'économie et du social. C'est le fonctionnement administratif, le fonctionnement de des institutions publiques, des relais entre l'État et les élus locaux, les relais dans les administrations, dont il va bien falloir tirer les leçons, parce que une des raisons pour laquelle la France a un si mauvais bilan, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, c'est quand même superposition et cet aspect kafkaïen de l'administration française.
Qui ne correspondent pas toujours très bien entre eux. Et on est dans un département, en plus, hein, le Loiret, effectivement, qui est en zone rouge. À suivre, à 18h42, les figures de la gauche arriveront-elles à se ranger derrière une candidature unique en 2022? C'est donc ce qu'appellent de leur vœu 1000 personnalités dans une tribune aujourd'hui. Le serpent de mer peut-il finir par prendre corps? Pas sûr, on en débat avec vous, les grandes voix du week-end, dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Théo Manval. Les grandes voix.
Ils partagent avec nous leur analyse et leur point de vue. Nos grandes voix du week-end ce soir, Jannick Halimi, Laetitia Krupa et Philippe Moreau-Chevrolet. L'union de la gauche, chère grande voix, c'est un serpent de mer, un vœu pieux jusqu'ici qui revient avec plus ou moins d'insistance, plus ou moins entre chaque présidentielle, encore plus depuis 2002. Et avec donc cette tribune publiée aujourd'hui, signée par 1000 personnes, militants, activistes, entre autres l'économiste Thomas Piketty, la députée France Insoumise Clémentine Autain, d'anciens socialistes, des écolos comme la maire de Marseille Michèle Rubirola, souvent souhaitée dans des appels jamais réalisés. Est-ce qu'il y a plus de motifs ou de chances qu'elle se concrétise cette fois-ci, Laetitia Krupa?
Ça fait tellement longtemps que le terrain est sinistré, que la gauche laisse un boulevard au pouvoir d'Emmanuel Macron, hein, parce que la droite, elle aussi, a complètement implosé, que oui, pourquoi pas. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas du tout, une tribune voilà, comme ça, 1000 personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont envie d'exister, qui ont envie de renverser un peu la vapeur et de revenir dans le jeu politique. Oui, enfin, c'est tout à fait normal, mais j'ai envie de vous dire, et après, enfin, et après, est-ce qui va pouvoir incarner cette voilà cette proposition à gauche? Jean-Luc Mélenchon, on a compris qu'il se lançait, il fait un peu d'appel du pied, hein, on l'a vu hein, dans ses différentes interviews là dernièrement, aux écolos, aux socialistes, il leur a écrit pour essayer de trouver des compromis, mais est-ce qu'il a vraiment envie et est-ce que les électeurs de gauche trouveront en Mélenchon une figure comme ça qui rassemble, qui fédère tout ce camp qui est vraiment très disparate? Moi, vraiment, pour le moment, c'est un vœu pieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste légitime. J'attends de voir.
Il leur a écrit, Jean-Luc Mélenchon, et il appelle effectivement à ses alliés de gauche. Mais aujourd'hui, Jannick Halimi, dans une interview à nos confrères de BFM TV cet après-midi, il enterre carrément cette union en disant que c'est impossible, que ça ne se fera jamais.
C'est pas étonnant. Vous disiez quelle est la différence aujourd'hui d'avec hier. Alors, je remonterai peut-être pas à 2002, mais tout simplement à 2017, hein, qui est la dernière élection présidentielle. Vous parliez d'un serpent de mer. Je pense que le serpent de mer est devenu une hydre de mer. Parce que, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais peu importe.
On voit l'image.
On voit l'image, voilà. Il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs tentacules. Il faut que je fasse attention avec mes bras, moi.
Aux parois en plexiglas dans ce studio, mais effectivement.
Ouais. Pardonnez-moi. Parce que depuis 2017, donc, il y a un parti, ça ne vous aura pas échappé, qui a grossi. Et la tête de certains leaders de ce parti également, si je puis dire. Mais ça, c'est un peu méchant et je ne le pense pas vraiment. En tout cas, il y a des candidats potentiels. Je veux parler bien sûr du parti écologiste, Europe Écologie Les Verts.
De Yannick
Jadot et d'Éric
Piolle. Très rapidement,
en 2017, le parti s'était plus ou moins éclaté. Certains avaient rejoint Emmanuel Macron, d'autres avaient rejoint le candidat socialiste de l'époque, qui était encore socialiste, Benoît Hamon. Donc, il y a un élément de plus qui suscite la disparité et l'éclatement et l'éparpillement en puzzle, comme on dit, de la gauche. Mais au-delà de ça, ou en plus de ça, il y a toujours des éléments, comment dire, structurels, en plus de ce que l'émergence du Parti Vert, c'est que entre la France Insoumise, le Parti Socialiste et maintenant les Verts, il n'y a pas de plateforme commune. Mais pourquoi pas? Il y a surtout des clivages idéologiques profonds. Comment voulez-vous qu'un parti qui est... Alors moi, je dis anti-européen, les insoumis disent non, on veut changer l'Europe. Il n'empêche qu'ils sont extrêmement eurosceptiques et certains très europhobes. Et qui sont contre la social-démocratie, par définition, pour les insoumis. Comment voulez-vous qu'ils tendent la main à la plus grosse partie, en tout cas, du Parti socialiste, même si certains socialistes ne veulent pas encore s'intituler sociaux-démocrates? La France insoumise ne veut pas tendre la main au Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui, s'il reste dans la foulée de François Hollande, comme ils disent. Premièrement, les écologistes sont, eux, européens. Donc, même question, comment voulez-vous qu'ils tendent la main et qu'ils s'entendent avec les insoumis? Et il y a, entre les trois partis et même à l'intérieur des partis, des fissures et des différences sur les problèmes sociétaux. Je n'en prendrai qu'un. Je veux parler du communautarisme ou de la laïcité. Le PS n'est pas au clair avec ça. Les écologistes ne le sont pas. La France insoumise, à la limite, l'est peut-être un peu plus, mais de façon extrêmement différente, voire divergente, avec au moins le Parti socialiste. Tout ça fait que, idéologiquement, c'est compliqué. Stratégiquement, on voit que les uns les autres, la greffe ne peut pas prendre.
On va y revenir, mais donc il y a des différences, il y a des guerres d'ego.
Et il y a des guerres de chefs qui effectivement, commencent déjà à se manifester.
Jean-Luc Mélenchon dit dès cet après-midi que cette union est impossible. François Hollande dit faisons le programme d'abord, mais que ça lui semblait aussi compliqué. Olivier Faure au PS plaide pour une candidature unique à gauche, mais on a un peu l'impression que c'est à condition que ça soit la sienne. Philippe Moreau-Chevrolet, il y a quand même des précédents très récents qui montrent qu'au niveau local, ça peut fonctionner. Les dernières municipales ont vu des listes d'unions qui ont permis à la gauche et aux écolos, pas tout seuls, mais de s'unir et de remporter des grandes villes comme Bordeaux, comme Marseille.
Oui, bien sûr, évidemment. L'union est possible au niveau local parce que c'est un tout petit peu plus simple. D'abord, il y a une personnalité, Rubirola par exemple, qui se détache, qui est une personnalité qui est un peu au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, au-dessus de ces problématiques-là, qui va jouer sa propre corde, un peu populiste, en tout cas proche des gens, et qui arrive à renverser la vapeur. Ce qui manque précisément dans le débat actuel à gauche, c'est une personnalité qui ose, c'est-à-dire qui soit suffisamment agressive, suffisamment volontaire pour arriver, d'une part, à enterrer le bilan de François Hollande, c'est-à-dire à expliquer ce qui n'allait pas dans la gauche du gouvernement récemment. Ensuite, à être suffisamment radical pour neutraliser Mélenchon, qui fait peut-être le combat de trop quand même. Hein. C'est quand même sa quatrième, cinquième, je ne sais plus, candidature.
Est-ce que c'est personnalités, pardonnez-moi Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que c'est des personnalités qui osent, qui manquent à la gauche, ou c'est au contraire des personnalités humbles et qui osent se rallier derrière quelqu'un d'autre qui manque à la gauche aujourd'hui?
Alors, s'affirmer en politique, c'est pas forcément avoir un ego boursoufler, ça peut aussi être avoir l'agressivité qui convient. Moi, je suis stupéfait de voir que la gauche, finalement, c'est un gentil chaton pour l'instant dans cette campagne. Il n'y a pas de griffes.
On a,
la gauche, c'est quand même un boulevard.
Philippe, ouais. Anne Hidalgo, elle est pas
possible.
Mal dans l'agressivité, l'ego.
Elle est bien dans l'ego, l'agressivité aussi, et elle a su faire à Paris l'union avec des gens qui sont pas faciles hein, quand même, qui sont un petit peu radicaux, et avec cette gauche qui grignote et qui pose problème, qui est la gauche identitariste, qui va jouer sur les minorités, etc.
La gauche urbaine. Vous écrivez, Jannick Halimi, vous avez écrit un papier ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, sur Anne Hidalgo pour 2022, elle y pense réellement?
Ah, elle y pense, mais elle dit évidemment que c'est pas à l'ordre du jour. De toute façon, c'est un peu trop tôt. Et elle cumule pas mal d'atouts. Elle fait effectivement, comme le disait Philippe, au niveau local. Je sais pas si Philippe parlait d'Anne Hidalgo, mais en tout cas au niveau local, c'est vrai qu'il y a des rassemblements et des politiques écologistes et socialistes laquelle la greffe.
À Bordeaux, à Marseille.
Voilà. Bon, alors on voit qu'il y a quelques tensions, notamment à Paris, mais à Paris, elle y arrive. Alors elle est effectivement extrêmement contestée, clivante. Il n'empêche que les Parisiens l'ont tout de même élue confortablement il y a quelques mois. C'est une femme, ce qui compte aussi également de nos jours dans une course à la présidentielle. Mais par exemple, Anne Hidalgo est sur une ligne sociodémocrate. Et elle aura beaucoup, beaucoup de mal à faire si, bien sûr, elle arrive à un mandat national, à faire une sorte de jonction avec les insoumis mélenchonistes tels qu'ils sont aujourd'hui.
Et on verra effectivement si ce qui existe déjà au niveau local arrive à se répliquer ou pas au niveau national. Nul doute en tout cas qu'on va beaucoup en entendre parler et en reparler de cette idée de candidature unique à gauche d'ici un an et demi. On débat de l'actu jusqu'à 19h avec les grandes voix du week-end. Dans un instant, la direction les États-Unis où, toujours atteint a priori par le Covid, Donald Trump reprend sa campagne ce soir. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Théo Manval.
Les grandes voix.
Je le disais donc en titre, Donald Trump reprend sa campagne présidentielle ce soir aux États-Unis. Discours sur la loi et l'ordre, son thème favori du moment, au balcon de la Maison-Blanche, devant plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de partisans qui seront rassemblés en contrebas. Donald Trump qui a assuré hier en interview qu'il se sentait beaucoup mieux. Mais au fait, lui demande-t-on sur Fox News, est-il toujours positif ?
Avez-vous été retesté ?
J'ai été retesté. Je n'ai pas encore reçu les résultats ou quoi que ce soit, mais j'ai été retesté. Et je sais que je suis plutôt tout en bas de l'échelle ou sans trace du virus.
Et quand sera votre prochain test ?
Je ne sais pas, probablement demain. Ils me testent tous les deux jours, mais c'est vraiment descendu à un niveau maintenant qui est super. C'est super que c'est disparu.
Voilà, il n'a pas les résultats, il ne dit pas qu'il est négatif, ce qui laisse à penser qu'il est donc positif. D'ailleurs, les médecins de la Maison-Blanche n'ont pas démenti ce point, même s'ils disent qu'il peut repartir en campagne. Il va pouvoir aller au bout de cette campagne, Laetitia Krupa ?
Ah bah ça, seul Dieu le sait. Hein. On est aux États-Unis, donc c'est pour ça que j'invoque Dieu. J'en sais rien, je ne sais pas du tout. De toute façon, vous avez bien compris qu'on ne pouvait pas, absolument pas faire confiance ni à Donald Trump, ni à ceux qui l'entourent. Donc, on verra bien. Lubris, c'est sa marque. Donc, oui, il nous a fait une consultation médicale sur Fox News. Il a pris 2 heures d'antenne sur une radio dans une émission ultra populiste, raciste. Voilà, avec vraiment des propos qui sont choquants hein, pour un chef, en tout cas un président des États-Unis. Donc c'est du Trump. Alors après, il faut rien prendre au pied de la lettre, tout écouter et voir aussi qu'il décroche sévère dans les sondages à cause de sa politique face au coronavirus.
Face au COVID. Et
donc est-ce que ça, est-ce que finalement ce sera le boulet qui l'empêchera de retourner et de rester à la Maison-Blanche.
C'est ce qui semble être le cas dans certaines études d'opinion qui lui donnent entre 6 et 14 points de retard selon les sondages sur Joe Biden. En tout cas, positif ou pas, Jani Kalimi, il semble avoir retrouvé un peu de vigueur, de forme. Il a donné une interview de marathon de 2 heures la nuit dernière où son bilan a été loué, effectivement, sur Fox News notamment. Renverser cette tendance en 3 semaines, sur le bilan économique notamment, est-ce que c'est encore possible ?
Je pense que c'est extrêmement compliqué parce que le pays est un de ceux les plus touchés par la crise sanitaire et la crise économique a aggravé la situation de zones entières qui étaient déjà extrêmement touchées par les crises successives de l'industrie depuis des décennies. Et il se trouve malheureusement pour Donald Trump, comme le disait Laetitia, que... la façon dont il a géré la crise sanitaire de façon, on va dire, un peu nonchalante aux États-Unis a fait que ceux qui ont été les plus touchés de façon économique et sociale, surtout par cette façon, encore une fois, un peu légère de traiter la crise, et puis de toute façon, des conséquences négatives de la crise, quelle qu'elle soit, même si les gouvernants l'ont bien traité ici et là, il y a une crise économique un peu partout. Bref, ce sont dans ces fameuses Rust Belt, vous savez, les zones des anciennes industries, pardonnez-moi.
Des États du Midwest, notamment, voilà, les États industriels, le Wisconsin, le Minnesota.
Exactement, dans lesquels font partie d'ailleurs les fameux États swing states, là où peut se jouer encore
l'élection.
L'élection. Il se trouve que le gros des électeurs de Donald Trump se trouve dans ces zones-là. Et la deuxième catégorie d'électeurs qui avaient beaucoup voté en 2016... Donald Trump,
il y a les cols bleus, les zones rurales.
Oui, et je veux parler aussi des personnes âgées. Beaucoup
qui
de personnes âgées
par
qui
COVID.
Sont bien évidemment, eux aussi, touchées par le Covid. Donc il y a 2 raisons de fond, au-delà de la personnalité du monsieur, 2 raisons de fond électorales qui pourraient faire que la courbe que vous indiquez, négative pour Trump, ne se redresse pas d'ici... quelques semaines.
Rapidement, Philippe Moreau-Chevrollet, en une minute, le deuxième débat qui était prévu la semaine prochaine, jeudi 15, a été annulé. C'était le seul débat où les électeurs devaient pouvoir poser directement des questions aux candidats. Ça va l'aider, Trump, de ne pas être interpellé publiquement, justement, par une mère de famille endeuillée ou un col bleu au chômage ?
Ça, c'est certain. Et puis, je pense quand même que ça va davantage aider Biden, qui a plutôt bien réussi lors du premier débat. Et je pense qu'il n'avait pas vraiment intérêt à se frotter à Trump, qui, dans ces cas-là, est un peu désespéré et aurait pu, par sa présence physique, par son intimidation même physique, aurait pu le déstabiliser peut-être. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour Biden que ce débat n'ait pas lieu. Pour Trump, je suis d'accord que les choses ne prennent pas une très bonne tournure. D'abord, on ne sait pas ce qu'est vraiment son état de santé, puisque tous ses médecins ont signé ce qu'on appelle des NDA, des Non-Disclosure Agreements, c'est
des clauses de confidentialité.
Donc on ne sait pas en réalité quel est son véritable état de santé et on ne sait pas s'il est contagieux ou pas, accessoirement. Et il est en train de perdre des voix, notamment dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui font l'élection aux États-Unis. Donc pour la première fois, on commence du côté démocrate à être vraiment optimiste. Après, il faut faire attention parce qu'à la même époque, les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante
avec
contre
beaucoup
Trump.
D'avance. Et effectivement, on sera en reportage dans les semaines. semaines qui viennent aux États-Unis sur Europe 1. Tous les matins, on vous tiendra informé évidemment des suites de cette fin de campagne qui s'annonce absolument haletante. Merci à vous trois, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Jannick Halimi pour vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos analyses sur cet état de la gauche française et cette campagne invraisemblable aux États-Unis. On vous retrouve demain pour les grandes voix du dimanche. Le journal de 19h dans un instant.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
C'est l'heure de l'info avec Lénaïque Monnier qui est en train de se passer un petit coup de gel hydroalcoolique sur les mains. Bonsoir Lénaïque.
Bonsoir Théo.
19h et les mesures barrières sur Europe 1.
Elle a pris l'événement à bras-le-corps, comme elle l'a fait finalement à chaque match depuis le début du tournoi. J'ai le sentiment qu'on va la revoir.
Amélie Mauresmo salue l'exploit. Iga Świątek, la jeune joueuse polonaise de 19 ans, s'impose à Roland-Garros.
Un rassemblement évangélique en pleine pandémie. 700 personnes actuellement réunies dans le Loiret. Le maire sur place est très inquiet.
Dans ce journal également, nous ferons le point sur la trêve depuis ce midi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Dans le Haut-Karabakh. Et puis, les grandes métropoles n'attirent plus comme avant les Français. C'est plébiscite après le déconfinement des villes à taille humaine pour s'installer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La fraîcheur et la jeunesse d'Iga Świątek, la jeune polonaise, a remporté Roland-Garros.
54e joueuse mondiale au début de la quinzaine. Elle est la plus mal classée à se hisser en finale depuis 45 ans. Elle a battu l'américaine Sofia Kenin, tête de série numéro 4, mais diminuée quand même par une blessure. Victoire en moins de 2h, 6-4, 6-1. Joli match, apprécié en tout cas par Amélie Mauresmo.
Incroyable. Elle a pris l'événement à bras-le-corps, comme elle l'a fait finalement à chaque match depuis le début du tournoi, pour imposer un style de jeu qui a posé pas mal de problèmes à son adversaire. Franchement, chapeau. Et puis, moi, j'ai le sentiment que... J'espère en tout cas que ça va être un visage qu'on va voir assez souvent et qu'elle va confirmer dans les semaines à venir, je ne sais pas, mais en tout cas dans les mois, les années qui vont venir, parce que j'ai l'impression qu'elle maîtrise vraiment très bien ce qu'elle fait. Je pense que la terre battue, c'est quand même aussi une surface qui lui est vraiment favorable. J'ai le sentiment qu'on va la revoir.
L'ex numéro 1 mondiale française, Amélie Mauresmo, au micro Europe 1 de Corinne Boulou.
À la une également ce soir, Lénaïque Monnier, ce rassemblement évangélique qui suscite la polémique, ça se passe dans le Loiret.
Oui, parce que 700 pasteurs venus de toute la France élisent leur conseil d'administration à 9 voix. C'est un rassemblement sur un terrain privé et le président de la L'association assure que les gestes barrières seront respectés, mais pour le maire de la commune, ce rassemblement reste une aberration. Écoutez-le, il s'appelle Jean-Froid Darmois.
Recevoir 700 personnes sur notre commune, alors qu'on nous interdit une manifestation de 30 personnes dans des établissements publics, même légèrement festifs, on va dire, et moi je peine à le supporter. Alors, mes propos ne sont pas contre les gens du voyage, bien entendu, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais là, on est dans une population qui, par définition, vient de toute la France et va repartir ce soir dans toute la France. On peut se poser des questions avec les règles sanitaires actuelles. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise un jour, Nevoy, ça a été un deuxième foyer infectieux. Le Loiret est en zone rouge pour l'instant. Ce n'est pas normal que l'on vive ça à l'heure actuelle.
Le maire de Nevoy, Jean-François Darmois, avec Nicolas Fellmann. Et puis on l'apprend ce soir en Indre-et-Loire. Ce sont 5 personnes qui sont mortes dans la collision en ULM et un avion de tourisme.
Ce rassemblement dont on parlait, rassemblement évangélique, intervient alors qu'on est juste après un nouveau record qui vient d'être battu, record de contamination. Plus de 20 000 cas en moins de 24 heures.
Et depuis ce matin, il y a 4 nouvelles villes qui ont basculé en état d'alerte maximale. Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne qui sont désormais concernées. Cela signifie que les bars sont fermés et que les restaurants, eux, ferment tout à l'heure à 22h et que tout cela va durer 15 jours au moins.
Les vacances scolaires et les déplacements qui en découlent ne vont plus tarder. Et là encore, Lénaïque Monnier, il faut agir en amont.
Et les tests se multiplient avant d'aller rendre visite à la famille, comme dans le Grand Est. Là, on va mettre en place ce qui s'appelle les tests antigéniques. La Haute Autorité de la Santé a donné son feu vert. Et comme le virus circule beaucoup chez les jeunes, Caroline Baudry, ce sont eux qui vont passer les premiers.
Oui, d'abord les 210 000 étudiants du Grand Est. Comme pour un PCR classique, le prélèvement sera fait au fond de la narine avec un écouvillon, sauf que le résultat est donné là en 30 minutes maximum. L'objectif pour Virginie Quéré, directrice générale de l'ARS, repérer et isoler les étudiants porteurs du virus avant le 24 octobre.
Ces étudiants vont rentrer dans leur famille pour les vacances de la Toussaint et le risque de faire circuler le virus vers des populations plus âgées va se situer à ce moment-là.
Deuxième cible de ce dépistage rapide, les employés d'EHPAD. Aujourd'hui, l'attente des résultats prive certaines maisons de retraite de leurs soignants, rappelle Romain Gilsom de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.
Vous avez aujourd'hui des professionnels qui doivent être testés parce qu'ils sont susceptiblement positifs et donc sont en arrêt dans un secteur qui est déjà notoirement sous-doté. Donc pouvoir disposer de tests plus rapides, ce sont autant d'outils pour faciliter leur exercice, pour contenir le virus auprès des personnes âgées.
Enfin, les tests antigéniques pourraient être utilisés dans les services d'urgence de la région pour trier les patients Covid des non-Covid.
Merci Caroline Baudry pour ces précisions ce soir pour Europe 1.
19h05 sur Europe 1. Un nouveau rassemblement à travers toute la France aujourd'hui des opposants à la PMA pour toutes les femmes.
Oui, c'est cette mesure phare de la loi bioéthique adoptée par l'Assemblée début août et qui sera examinée par le Sénat dans les prochains mois. Ils étaient plusieurs centaines, notamment à Toulouse, à Lille, Rennes ou Bordeaux, à l'appel du collectif Marchons Enfants au cri de PMA Macron-Talois, on n'en veut pas. À Paris, c'est place Vendôme qu'ils se sont retrouvés devant le ministère de la Justice.
Il était important pour nous, dès la rentrée, dès que cela était possible pour nous de nous rassembler, de venir clamer notre opposition à ce texte, qui est un texte que nous considérons injuste et discriminatoire pour certains enfants. Le processus législatif est avancé, mais il reste encore de très nombreuses étapes. Les commissions mixtes paritaires, la séance publique au Sénat, le retour à l'Assemblée nationale, l'étude de la constitutionnalité du texte, son signature, sa promulgation, etc. Voilà, et la Manif pour tous et Marchons d'enfants sera présente à chacun de ces étapes pour rappeler notre position jusqu'au retrait de ce texte.
Voilà, et témoignage de cette personne du collectif Marchons enfants, était recueillie par Damien Mestre.
L'actualité internationale à présent, les Naïk Monnier et le cessez-le-feu qui est entré en vigueur, ça y est, dans le Haut-Karabakh.
Oui, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu d'une trêve après 15 jours de violence. Les deux pays ont accepté d'ouvrir un processus de négociation pour résoudre la crise. Officiellement, les combats jusqu'à présent ont fait 400 morts. Pour Taline Papazian, qui est docteur en sciences politiques à l'université d'Aix-Marseille, eh bien le conflit est loin d'être achevé.
On n'est pas sorti du tout de cette guerre. Les dernières mises à jour auxquelles j'ai pu accéder de l'information sur place datent d'il y a 3 heures, 2 heures après l'heure supposée de départ de cessez-le-feu. Et ces dernières informations faisaient état d'une continuation des attaques. Tout le monde s'interroge sur est-ce que ce cessez-le-feu sera effectivement mis en place ou est-ce qu'il va être rendu aussitôt caduc qu'annoncé. Là, ce qui a été décidé donc sous l'égide de la Russie hier, c'est un cessez-le-feu humanitaire. Un temps de trêve, j'ai envie de dire, pour permettre aux camps respectifs de s'échanger des corps et des dépouilles. Il est aussi prévu que les négociations recommencent, donc la porte est ouverte sur quelque chose qui pourrait transformer un cessez-le-feu humanitaire en un cessez-le-feu plus durable et ensuite en des discussions pour résoudre le conflit. Mais ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Difficile de se prononcer à l'heure actuelle.
Taline Papazian, qui est docteure en sciences politiques, elle est aussi spécialiste et surtout de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle répondait à Pierre Herbulot.
19h07 sur Europe 1, la politique, des idées et un programme plutôt qu'un candidat. François Hollande a répondu ce soir à l'appel des 1000.
C'est cette pétition signée par plusieurs figures de la gauche et qui prône une candidature commune pour 2022. Trop tôt pour l'ancien président. Et d'ailleurs, ça va rappeler des souvenirs à certains. François Hollande appelle de son côté à bâtir un programme commun. Cela part d'une bonne intention, a souligné François Hollande. Mais ça ne sert à rien pour le moment. Il n'y a aucune portée concrète.
François Hollande qui s'exprimait depuis Blois, une ville moyenne comme beaucoup d'autres en France.
Et les grandes métropoles qui saturent d'habitants, sont chères et parfois trop polluées, n'attirent plus vraiment les ménages qui se replient sur ces villes à taille humaine, Hélène Terzian.
Effectivement, les ménages sont attirés par les villes à taille humaine de moins de 200 000 habitants, avec en tête de classement Angers, Clermont-Ferrand et Reims. Ce mouvement, il est né avant la pandémie, mais le confinement, la peur du virus et l'explosion du télétravail, bien sûr, l'ont accéléré. En fait, si beaucoup quittent les grandes métropoles pour ces villes moyennes, c'est qu'ils y trouvent les mêmes atouts, une économie locale dynamique, de grandes infrastructures, mais avec un meilleur cadre de vie. C'est ce qui a poussé Yacine et son épouse à quitter Paris il y a quelques mois pour s'installer à Évreux.
Il y a du travail, il y a des commerces, il y a des transports, y compris des transports en commun, des lignes de train qui vont sur Paris. Donc on est à 1 heure de train de Paris et ça c'est pour nous un grand avantage. Des autoroutes qui passent pas très loin quand on veut se déplacer. Et ça c'est vraiment agréable, c'est une grande proximité de Paris à ses activités, de la famille, des amis. Et pour autant, pas ses inconvénients, ses transports, ses bouchons, son coût de la vie très élevé.
Et oui, parce qu'il y a aussi un pouvoir d'achat immobilier bien plus intéressant. Yacine et son épouse ont pu s'offrir une petite maison pour 120 000 euros, ce qui aurait été impossible dans une grande métropole. D'après l'étude à salaire égal, les ménages peuvent acheter 70 mètres carrés à Angers, 91 mètres carrés à Poitiers, 117 mètres carrés à Quimper, mais seulement 20 mètres carrés à Paris.
La comparaison est vite faite.
Oui, on a envie de partir, hein, tout de suite, maintenant.
Merci Hélène Terzio et merci Léna Écomonier pour le journal. À tout à l'heure, 19h30.
À tout à l'heure.
Un coup d'œil à la couleur du ciel. Valérie Darmon, météo de nouveau maussade pour ce dimanche.
Et oui, et de l'Aquitaine au bassin parisien jusqu'aux Ardennes, le temps qui est instable et très pluvieux, le vent du nord qui accentue le ressenti bien froid, digne de novembre. Des Hauts-de-France à la Bretagne et Pays de la Loire, le risque d'averse faiblit progressivement et vous retrouvez d'assez belles éclaircies en bord de mer en toute fin de journée. Des Pyrénées aux Alpes en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté, le Massif central, averse et neige en montagne dès 1200 mètres d'altitude. Soleil tout de même en Languedoc-Roussillon au prix d'une forte tramontane jusqu'à 90 km heure en rafale. En basse et moyenne vallée du Rhône et en Provence, le Mistral qui atteint 100 km/h. Sur la côte d'Azur et en Corse, retour des averses orageuses dans l'après-midi. Je vous donne la fourchette des températures le matin entre 3 Aurillac et 14 degrés à Nice. Et l'après-midi, des maximales qui baissent encore entre 9 à Saint-Étienne et 20 degrés à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie Darmon. 19h10, les sports, Jean-François Pérez et retour sur les finales féminines de Roland-Garros cet après-midi.
Les finales chez les dames, victoire de la Polonaise Iga Świątek, vous l'avez entendu tout à l'heure, 6-4, 6-1 face à l'Américaine Kenin. Et puis chez les juniors,
Coco,
c'est la Française Elsa Jacquemot qui s'impose 11 ans après Kristina Mladenovic. Victoire en 3-7 face à la Russe Sharayeva. Elsa Jacquemot, lyonnaise, 17 ans, numéro 6 mondial chez les juniors. Axel May, pourtant, ce n'est pas forcément un passeport pour la postérité.
Oui, ce n'est pas parce que vous êtes une très bonne junior que vous devenez une très bonne joueuse professionnelle. Mais quand même, remporter Roland-Garros chez les jeunes, c'est significatif. Je vous donne les noms des Françaises qui se sont imposées avant Elsa Jacquemot. Kristina Mladenovic, il y a 11 ans, la dernière, et puis avant Alizé Cornet, Virginie Razzano, Amélie Cocheteux, peut-être la moins connue de toutes, Amélie Mauresmo, Julie Allard et il y a encore un peu plus longtemps, Pascal Paradis. C'est dire qu'elles ont à peu près toutes ces joueuses juniors fait une belle carrière chez les seniors. Du haut de ses 17 ans, Elsa Jacquemot reste les pieds sur la terre ocre, bien entendu.
Ouais, bah, j'espère avoir cette carrière-là. Pour l'instant, bah, je sais que la route est longue et je vais continuer à m'entraîner, même si bah, là, j'essaye de savourer ce moment-là.
Pierre Chérel, le directeur technique national du tennis français, suit avec attention, évidemment, le parcours des jeunes.
Il faut être dans les meilleurs joueuses du monde junior, ce qui risque d'être, il faudra qu'il y ait les calculs. Mais avec les points qu'elle va prendre là, elle est 6e mondial junior, je pense qu'elle risque de passer numéro 1. Donc aujourd'hui, voilà, elle valide le ticket numéro 1 mondial junior, gagner un grand chelem. C'est ce qu'a fait, je lui souhaite un jour, ce qu'a fait Świątek en gagnant Wimbledon et en étant numéro 1 mondial junior.
Świątek, qui il y a 2 ans disputait le tournoi junior de Roland-Garros.
Voilà pour les vainqueurs. ES de la journée. Demain, la grande finale, messieurs, évidemment, hein, Nadal face à Djokovic. Rendez-vous 15h.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Et puis ne ratez pas à 20h Europe 1 Sport avec vous, Jean-François Pérez.
1h 100% tennis avec notamment Cédric Pioline, Antoine Beneteau, auteur d'un excellent dictionnaire amoureux du tennis, et Gilles Moreton, candidat à la présidence de la fédération. On parlera aussi foot avec le dossier des droits télé et Marcelo Bielsa, une petite révolution en Angleterre.
Le foot, justement. France-Portugal, J-1.
Oui, c'est le choc du groupe des Bleus en Ligue des Nations. Le souvenir aussi de la finale de l'Euro 2016, on en parlait tout à l'heure, remportée par les Portugais. 4 ans déjà depuis, les deux équipes ont confirmé. Hugo Lloris, le capitaine français, est impatient d'en découdre.
Que ce soit l'évolution de l'équipe portugaise ou de l'équipe de France, elle est plus que positive. Parce que derrière, les Portugais ont confirmé en gagnant la Ligue des Nations et l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Donc, ce qui veut dire que les équipes sont meilleures. On a déjà 2 victoires et on espère demain confirmer cette belle lancée. Il faudra être à la hauteur de ce test.
Voilà Hugo Lloris au micro de Cyril de la Morinerie. Match demain au Stade de France à vivre en direct intégral dans Europe 1 Sport. On envoie à 20h45.
Pardonnez-moi le reste de l'actualité sportive en bref.
Oui, le rugby top 14 à 8 jours de la finale de la Coupe d'Europe. Ce soir, il y a un choc. Le Racing, qui est le finaliste, donc reçoit Toulouse à 21h. Grande journée française au championnat du monde de VTT cross-country en Autriche. Pauline Ferrand-Prévot chez les dames, Jordan Sarrou chez les messieurs et Loana Lecomte chez les espoirs. 3 médailles d'or pour la France.
Bravo.
Et puis Formule 1, les Mercedes en pole. Demain, au Grand Prix de l'Eifel en Allemagne, Valtteri Bottas s'élancera devant Lewis Hamilton.
Merci beaucoup Jean-François Pérez. Et puis on vous retrouve donc à 20h pour Europe 1 Sport
avec
ce
plaisir.
Soir.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Bientôt 19h15 sur Europe 1, juste après la pause. Il était venu parler de son livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » il y a quelques semaines sur Europe 1. Quel regard Jean-Pierre Aubin porte-t-il sur le plan de lutte annoncé depuis par Emmanuel Macron ? Il vient nous le dire dans une minute.
Europe Soir Weekend,
Théo Manval.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, à l'écoute de votre grand journal. Il est 19h16, une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron sur la lutte contre le séparatisme et les mesures, notamment pour l'école. On apprenait il y a deux jours une nouvelle fermeture d'école clandestine à Bobigny. Plusieurs dizaines d'enfants encadrés par des parents en lien, selon la police, avec l'islam radical. Mise en examen aussi mercredi d'un lycéen près de Rouen pour apologie du terrorisme. Lui a menacé auprès de ses camarades au sein de l'établissement, je cite, de faire comme Daesh. Bonsoir Jean-Pierre Aubin.
Bonsoir.
Ancien inspecteur général de l'éducation nationale, vous êtes l'auteur d'un livre paru ces dernières semaines, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » aux éditions Hermann. Vous êtes celui surtout qui a alerté dès 2004 sur ce danger auprès de différents ministres. On va y revenir. Mais d'abord, ce plan annoncé par Emmanuel Macron, instruction obligatoire à l'école dès 3 ans, contrôle renforcé sur les écoles hors contrat et limitation de l'école à la maison aux seules raisons de santé. Quel regard vous portez sur ces mesures pour lutter contre l'islamisme à l'école ?
Oui, tout d'abord, avant des mesures, il y a toute la partie du discours d'analyse du président de la République que je trouve excellente. Pour la première fois, la réalité n'est pas niée, on nomme les choses, on appelle un chat, l'islamisme, l'islamisme. On ne se réfugie pas derrière des faunés. Et là, je trouve que vraiment, il y a une évolution du président de la République sur la prise de conscience de l'importance et de la dangerosité du phénomène.
Et de ne plus mettre
pas seulement à l'école.
La poussière
maintenant,
sur le
tapis.
Les
mesures, voilà, on ne met plus la poussière sous le tapis et on nomme les choses. Et c'est la première victoire, c'est de nommer les choses. Hein. Et Simone de Beauvoir disait nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est agir. Voilà, donc c'est un début d'action. Et puis, maintenant, sur les mesures que vous énumérez, il y en a une qui est vraiment spectaculaire, c'est la scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans et la fin de l'instruction à domicile, sauf raison de santé. Ça pose... Bon, tout d'abord, pourquoi c'est important ? Parce que, certes, il n'y a que 50 000 enfants qui sont instruits dans la famille actuellement en France, ça représente peu de choses, mais c'est la dynamique qui est importante. Et quand je regarde, par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est le doublement du nombre d'enfants qui sont soustraits à l'école tous les 2 ans. Donc il y a quelque chose qu'il fallait arrêter maintenant, alors que le mouvement n'est pas encore trop important. De toute façon, l'éducation nationale ne pouvait plus suivre. Les inspecteurs qui sont mobilisés pour aller dans la famille, que l'on ne veut pas recevoir, qui doivent s'enquérir du programme que suit l'enfant parce qu'il ne suit pas le programme scolaire, ça devenait, dans certains départements, une charge vraiment insupportable.
Tous les enfants qui sont scolarisés à domicile ne le sont pas dans des familles ou avec des parents qui leur font un enseignement lié à l'islam radical. C'était essentiel de le préciser. Simplement, ces mesures, Jean-Pierre Aubin, elles font finalement porter encore plus de responsabilités sur l'école publique dans la lutte contre ces comportements, une école qui est déjà parfois dépassée, c'est ce que vous décrivez dans votre livre.
Oui, mais en même temps, le président de la République demande aux enseignants, aux responsables de l'éducation nationale de prendre les choses en main, de prendre la mesure du phénomène et de réagir. Alors, si je prends par exemple deux autres mesures, l'école hors contrat, qui devrait être mieux contrôlée, les écoles hors contrat mieux contrôlées, les associations complémentaires de l'éducation nationale qui travaillent sur toute une série de sujets dans les classes et lors des sorties scolaires ou lors des classes vertes ou des classes de nature ou classes culturelles ne seront plus subventionnées si elles n'offrent pas une garantie claire de conformité au principe de laïcité. C'est quelque chose d'important.
Votre livre, Jean-Pierre Aubin, est rempli d'exemples à la fois presque anecdotiques pour certains, mais qui sont inquiétants dans leur ensemble. Ces parents qui bataillent autour de la nourriture qu'on donne aux enfants, ces petits qui refusent d'écouter la comptine des trois petits cochons, ces certificats de complaisance qui sont faits à certaines petites filles arguant d'une allergie au chlore pour qu'on ne puisse pas les emmener en cours de piscine. Vous citez aussi ce jeune prof d'histoire de Marseille qui se retrouve à faire cours avec un exemplaire du Coran sur son bureau.
Oui, ces anecdotes sont effectivement ne sont que des illustrations, mais des illustrations de dérives qui sont maintenant connues, mieux connues, chiffrées, grâce à des études, grâce à des sondages. Je voudrais donner qu'un seul exemple de la gravité du problème. On sait qu'il y a un certain nombre de cours qui sont contestés,
notamment les cours d'histoire,
certaines disciplines. notamment les cours d'histoire et ceux de biologie. Mais ce qu'on sait moins, c'est que lorsqu'ils sont interrogés par l'IFOP en 2018 sous le sceau de l'anonymat, les enseignants eux-mêmes déclarent s'être auto-censurés pour plus d'un tiers d'entre eux et pour plus de la moitié d'entre eux dans les zones d'éducation prioritaire.
54% dans les ZEP, oui.
54%.
Jean-Pierre Aubin, est-ce que vous êtes encore avec nous? La liaison était un petit peu difficile. Vous étiez en train de nous parler des signalements qui sont faits. Je vais redonner un chiffre pendant qu'on vous remet en ligne. 40% des signalements pour des atteintes à la laïcité au collège et au lycée. 40% aussi désormais dès le primaire. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Oui.
40% des signalements dès le primaire. Donc, plutôt qu'on ne le pense, ces atteintes à la laïcité ou ces comportements de jeunes élèves arrivent.
Il faut savoir qu'en même temps, oui, ce sont surtout les parents dans le primaire qui sont les auteurs de ces incidents, davantage que les enfants. Sur la cantine, sur l'habillement, sur l'impossibilité pour l'enfant ou l'interdiction à l'enfant de suivre un cours de musique, de suivre un cours de dessin, par exemple, ce qui est assez fréquent. Ce sont les parents qui sont à l'origine de ces incidents.
Et justement, ces outils de signalement qui ont été renforcés, mis en place depuis 2 ans après l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, vous étiez en train de nous dire que les enseignants souvent s'auto-censuraient, ne signalaient peut-être pas tout ce qui avait lieu d'être signalé. Ces signalements-là, ils sont encore sous-estimés. Il y en a 1 000 000 par an aujourd'hui pour 12 millions d'élèves.
1 000 000 par an, ce qui correspond en rien au résultat du sondage où les enseignants sont interrogés de manière anonyme.
Qu'est-ce qui manque?
Donc,
alors, ils se sentent pas soutenus
la partie émergée de l'iceberg.
Qu'est-ce qui manque? Alors, ils se sentent pas soutenus, ces enseignants, peut-être par leur hiérarchie aussi, lorsqu'ils signalent des choses. Pourquoi est-ce qu'ils s'autocensurent?
Ils s'auto-censurent pour différentes raisons. La première raison, c'est que lorsque on ne fait pas une partie du cours, par exemple, par peur des incidents, non pas qu'il y ait eu des incidents, mais simplement par peur qu'il y en ait, on n'en est pas très fier et on ne va pas le clamer sur les toits. Donc on le garde pour soi. Et ça, c'est une grande partie des choses qui ne sont pas signalées. D'autre part, lorsqu'un incident éclate dans une classe, bon, on cherche d'abord à le régler soi-même, on le règle, parfois bien, parfois moins bien, mais on pense que ce n'est pas la peine de le signaler parce que ça risque de nuire quand même à l'appréciation que l'institution peut avoir sur la compétence pédagogique de l'enseignant. Donc on a plutôt tendance à cacher tout ça. C'était le cas en 2004, nous l'avions vu, en allant dans l'établissement scolaire. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a cette tendance à ne pas dire ce qui cloche, ce qu'on n'a pas bien réussi à faire dans une classe.
Et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à qui vous avez envoyé votre livre, dit, je crois, en partager la quasi-totalité des idées. On va voir comment ça se précise dans les mois ou les années qui viennent, cette lutte qui continue contre l'islamisme qui gagne du terrain dans nos écoles. Merci beaucoup Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Votre livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » est en librairie en ce moment, paru aux éditions Hermann. Merci à vous.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Dans un instant, le journal de l'environnement et l'essentiel de l'actu. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Théo Manval. Le journal de l'environnement.
À 18h28 sur Europe 1 avec, comme chaque week-end, Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
La forêt de Chantilly est en train de mourir. Les ingénieurs forestiers craignent qu'elle ne disparaisse d'ici 50 ans comme d'autres forêts françaises. Un branle-bas de combat se met en place pour trouver des solutions. Virginie, une réunion avec des politiques, des scientifiques s'est tenue cet après-midi dans l'Oise pour tenter de la sauver, cette magnifique forêt de chênes. De quoi exactement est-elle malade?
Alors il y a 3 causes principales. Le réchauffement climatique, en particulier les sécheresses estivales. Il y a des pics qui dépassent les 38 degrés dans l'Oise, c'est beaucoup. Un sol sableux qui ne retient pas l'eau de pluie. Et puis des attaques de hannetons sur les 3/4 de la forêt. Les larves grignotent les racines des arbres. C'est sans doute, selon les scientifiques, aussi une conséquence des températures plus élevées de ces dernières années. Et c'est la première invasion de cette ampleur, nous dit l'ingénieur forestier du domaine, Daisy Copeau.
C'est la première fois que l'on observe un phénomène de cette ampleur. On a cherché dans les archives du château. On est remonté jusqu'en 1680 et on n'a jamais vu une telle attaque. Il profite certainement du radoucissement de l'hiver. Donc les générations se multiplient. Donc on a des arbres qui n'ont plus assez d'eau, à la fois par la pluviométrie, mais surtout par le dessèchement, c'est par cette évaporation qui ne fait que grimper avec les températures moyennes. Et en même temps, on a des larves qui grignotent leurs racines. Donc au final, on a des arbres qui meurent de faim et de soif.
Comment on la voit, cette sécheresse, Virginie, sur les arbres?
Alors, ça va surtout à la cime des arbres qui s'étiolent, c'est-à-dire que les branches ont de moins en moins de feuilles. L'explication, c'est que l'arbre n'arrive plus à faire des réserves d'eau et de nutriments pour fabriquer à nouveau des feuilles au printemps. Mmh. C'est la théorie du boxeur, comme disent les scientifiques. Ça fait 10 ans que les arbres se prennent des coups, un peu comme des uppercuts à chaque pic de chaleur, et ils n'arrivent plus à se relever. La situation, elle est tellement alarmante que les scientifiques demandent de l'aide de toutes les bonnes volontés pour trouver des solutions. Donc, les habitants, les cueilleurs de champignons, les scientifiques, la forêt se transforme en laboratoire avec 300 points de contrôle installés pour essayer de comprendre ce qui pourrait aider ces arbres à survivre. Mais même s'ils sont assez pessimistes, 50 000 arbres sont en train de mourir. C'est environ un tiers de la forêt.
Un tiers de la forêt qui est KO comme un boxeur. Il y a des solutions, Virginie, qui se dégagent?
Alors pour l'instant, c'est plutôt des rustines. Par exemple, les ingénieurs forestiers demandent l'aide des chasseurs pour faire diminuer un peu les populations de chevreuils, de biches et de cerfs, entre autres, puisqu'ils se nourrissent beaucoup de jeunes pousses d'arbres, ce qui n'aide pas la forêt, évidemment.
Ça les empêche de pousser.
Voilà. En moyenne, un chasseur utilise 7 balles pour tuer un gibier. Là, très concrètement, les scientifiques demandent aux tireurs d'être plus précis et plus efficaces pour laisser un peu de répit à la forêt de Chantilly.
Et oui, les chasseurs et la régulation des espèces, ça compte aussi pour protéger nos forêts. Merci beaucoup Virginie Salmen et on vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Environnement.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Il est 19h30 sur Europe 1. Le rappel des titres avec vous, Lénaïk Monnier.
Iga Świątek remporte Roland-Garros. La jeune Polonaise de 19 ans a dominé l'Américaine Sofia Kenin 6-4 au 6-1. Elle va passer de la 54e à la 17e place mondiale. Convalescence de courte durée pour Donald Trump qui repart en campagne. Une semaine après son hospitalisation, le président américain anime ce soir une première réunion à la Maison Blanche. Il ira ensuite dans plusieurs états clés dès lundi, la Floride, la Pennsylvanie et l'Iowa. Après Paris, Marseille et la Guadeloupe, 4 nouvelles villes ont découvert aujourd'hui l'état d'alerte maximale. Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille, alors qu'un nouveau record a été battu. Plus de 20 000 cas de Covid en moins de 24 heures en France. Et puis à 18 mois de la présidentielle, plusieurs dizaines de figures de la gauche appellent à une candidature commune pour 2022. Ils signent une tribune intitulée « 2022 vraiment en commun ». Trop tôt, estime François Hollande qui donnait une conférence à Blois. Il faut d'abord mettre sur la table des propositions et mettre en commun un programme.
Merci Lénaïk, à tout à l'heure 20h.
Europe Soir Weekend. Théo Manval. Dans l'ombre des grands chefs.
Et on passe en cuisine, retrouver Pierre Herbulot comme chaque samedi dans l'ombre de la famille Josserand ce soir à Lyon avec sa délicieuse tarte aux pralines, Pierre.
La tarte aux pralines, c'est un dessert emblématique de la gastronomie lyonnaise. Alors je vous ai trouvé un bouchon tout aussi emblématique, le Café du Jura, 150 ans d'existence. Bonsoir Brigitte Josserand.
Bonsoir monsieur.
Et le fils aussi qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Les pralines, on en trouve à Lyon, j'imagine, partout.
Dans des piscines.
À Lyon, on en trouve vraiment partout, sinon je pense dans les autres régions de France, auprès de différentes épiceries fines, ça se trouve facilement. Et sinon, la magie d'Internet, vous pouvez les commander.
La couleur rose, elle vient d'où?
Alors, elle vient d'un colorant naturel qui est le carmin. Faut bien faire attention, il existe deux sortes de pralines. Celle avec un colorant chimique, bidule, je sais pas quoi. Et nous, on privilégie donc les pralines avec un colorant naturel.
Est-ce que je peux goûter comme ça?
Bien sûr.
Hop, j'en prends une petite.
On commence par faire la pâte, si vous voulez la faire vous-même. Donc nous, la pâte à tarte, c'est pour l'équivalent de deux tartes. On prévoit 450 g de farine, 150 g de sucre glace, 150 g de beurre mou. Faut que le bout de doigt puisse s'enfoncer dedans, et deux œufs. Soit vous pétrissez tout ça à la main dans un saladier, soit si vous avez un KitchenAid, un robot coupe, vous le faites. Vous faites une boule, vous mettez dans un sopalin ou un linge propre.
Un peu de repos au frigo. Ouais.
Voilà, repos au frigo, 2-3 heures pour que la pâte soit trop molle. Et après, ben, vous l'étalez. Hein,
on étale, on cuit à blanc.
Hop, dans le four. Plus vous aimez croustillant, plus vous laisserez doré. Doré, mais pas brun. Brun, on est peut-être un petit peu trop en avant.
Voilà, ça c'est fait. Je repasse avec vous, Brigitte. On s'occupe de l'appareil à praline maintenant.
On prend une casserole en cuivre, de préférence. On met 300 g de crème UHT, 300 g de praline concassée.
On fait cuire jusqu'à 111 degrés, quand ça fait bien un ruban.
Visuellement, ça ressemble à une confiture de praline liquide, mais tout en étant un peu ferme.
Sirupeuse.
Voilà, sirupeuse.
Faut que ça fasse le ruban, on va dire. Ça nappe bien la cuillère.
Et là, quand c'est comme ça, en fait, c'est terminé.
Exactement. On va laisser refroidir un petit peu. Dès que c'est tiède, on l'étale sur le fond de tarte. On laisse bien refroidir pour que la préparation se tienne bien.
Et après, vous pouvez couper et déguster avec une boule de glace vanille.
Très bien. Est-ce qu'on peut s'en goûter une petite part?
Bien sûr. La pâte maison croustille bien.
Elle est bien dorée, elle est bien, bien friable. Et effectivement, la texture est hyper intéressante aussi. C'est pas du tout ce côté caramel, qui colle aux dents.
Tout réside dans la cuisson. Parce que si vous allez au-delà de 111 degrés, après, ça va se faire quelque chose de très compact. Vous allez presque avoir un caramel dur, comme un biscuit au caramel.
Et voilà, une légende des bouchons lyonnais, la tarte aux pralines. Au café du Jura, la famille Josserand.
La recette de la mère, mais qui ce soir est très occupée. Elle est occupée sur ses tripes à la lyonnaise, du coup, c'est moi qui vous explique la recette.
Il y a trois casseroles remplies de tripes là-bas, ça sent hyper bon aussi, mais ça on verra ça peut-être pour une autre recette. Merci beaucoup, Benoît Josserand.
Merci.
Voilà les photos et la recette de cette tarte aux pralines, spécialité lyonnaise, à retrouver sur le compte Twitter de Pierre Herbulot et sur notre site europe1.fr dans l'ombre des grands chefs, si vous voulez vous y essayer, c'est délicieux.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
Allez, 19h35, l'heure de mettre en lumière, comme chaque samedi, l'écologie du quotidien. Et pour en parler avec nous ce soir, bonsoir Jacques Séguéla.
Mais bonsoir, merci pour votre invitation.
Nos auditeurs seront peut-être un peu surpris, oui, de vous entendre dans cette rubrique, vous le grand nom de la publicité. Vous venez de publier un livre, « Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire ». C'est un plaidoyer, un appel à prendre enfin des mesures concrètes pour l'environnement. Quand et comment êtes-vous devenu écolo, Jacques Séguéla ?
Écoute, j'ai démarré dans la vie en écolo avant l'écologie. Je suis parti il y a 60 ans faire le premier tour du monde d'une voiture. Mmh. Alors, c'était une voiture, mais c'était la deux chevaux. C'est la voiture qui consommait 3 litres au 100. C'était, j'ai passé 450 000 ans à la Belle Étoile. J'ai découvert le monde. Le monde était tellement beau il y a 60 ans. Hein. Et surtout, j'ai découvert les gens qui le peuplaient. Et c'était ma leçon d'écologie. Je suis revenu, j'ai été happé par la publicité. On lui fait un méchant procès. La publicité, c'est l'éponge du temps. Mmh. La publicité, c'est le miroir du moment.
On y reviendra.
Donc, quand on est dans des années de bonheur, de croissance, de créativité, ben, la publicité, elle passe son plein. Mmh. Et puis, quand on est dans les moments aujourd'hui où il faut vraiment se serrer les coudes, c'est pas le moment de lui taper dessus, c'est le moment de lui dire « tu vas te mettre au service de l'écologie ». Et c'est explique ce livre.
Le constat, vous le rappelez beaucoup dans ce livre, on le connaît tous, hausse des températures, niveau de CO2 record dans l'atmosphère, chute de la biodiversité, je vais redire un chiffre que vous citez, en 40 ans, 60% des mammifères, des oiseaux et des amphibiens et des reptiles ont disparu de notre Terre, plus de la moitié de ces espèces. Vous dites en revanche, Jacques Séguéla, ne pas vouloir être dans l'écologie punitive, mais dans une écologie non imposée. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que cette écologie-là, positive, non régulatrice, elle n'a pas déjà fait la preuve de son échec ?
Il y a deux écologies. Il y a l'écologie politique. Moi, je la respecte. C'est eux qui s'attaquent aux très grands problèmes. C'est eux qui s'attaquent au gouvernement et avec des succès. Mais il y a l'écologie des terriens. Il y a l'écologie de tout le monde. L'écologie, ça n'appartient pas à la politique, ça n'appartient à la droite ou à la gauche. L'écologie, c'est notre façon de vivre. L'écologie, c'est un mode d'exister.
Mais justement, pour convaincre...
Et tout le monde y a droit. Et on ne peut pas se permettre, d'ailleurs, de laisser l'écologie simplement à la politique, car l'écologie sera démocratique ou ne sera pas, l'écologie sera populaire ou ne sera pas. C'est Darmanin, d'ailleurs, qui dit ça. Le ministre de l'Intérieur dit ça. C'est pas par hasard.
Je vous cite dans le livre, vous dites vouloir montrer qu'il y a une autre manière de défendre l'environnement que de culpabiliser les gens. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, Jacques Séguéla, vous essayez de convaincre vos voisins, vos proches, faire l'écologie au quotidien?
En donnant l'envie d'aimer notre mère, la Terre. On lui doit tout. On l'a tellement maltraitée pendant des siècles et des siècles. On lui a fait toutes les misères du monde. Vous parliez des animaux. Quand on pense que le génocide animal correspond à la population de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de la Chine et de l'Afrique
entière,
en humains, transformés en animaux qui ont été tués. C'est pas croyable. C'est hallucinant. Donc, je pense que on est dans un moment où plus que jamais on a besoin de croissance. On ne peut pas être dans une écologie de décroissance. On doit être dans une écologie qui se met au service. Et qui peut le mieux agir pour l'écologie? Ce sont les marques.
Justement.
Et les marques les premières,
On les accuse parfois de greenwashing, de vouloir se donner une image verte qu'elles n'auraient peut-être pas. Le monde dont vous venez, Jacques Séguéla, celui de la publicité, n'est-il pas lui aussi à réguler?
Non, alors...
Sur la surconsommation, bon, la sur l'affichage, les écrans vidéo...
Ouais, la publicité, c'est toujours la mal-aimée. Elle l'a un peu cherchée. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a 40 ans, je n'étais pas né, j'avais fait une affiche... Trop de pubs, tue la pub. Mm. Bon, et c'est vrai, elle s'est fait beaucoup de mal, mais elle a beaucoup changé depuis 10 ans. Mm. Depuis 10 ans, sous l'exigence des consommateurs, une marque ne peut pas exister si elle ne s'engage pas dans une grande cause.
Aujourd'hui, oui, elle se ferait lyncher sur les réseaux sociaux.
Exactement. Et c'est ce qui fait progresser l'écologie. Tout autant que le font les écologies à leur manière, qui est une manière politique plus brutale. Moi, je suis pour la soft écologie, je suis pour l'écologie de la croissance, pour l'écologie humaine, pour l'écologie partagée, pour l'écologie sincère, pour l'écologie que chaque terrien a envie de faire. C'est ce que j'appelle, moi, les gestes barrières de l'écologie. Il y a les gestes, comme il y a les gestes barrières, hélas, du Covid, ce sont des gestes simples. Je donne 8 gestes simples qui permettraient, chacun faisant un
chacun
effort,
à son échelle,
d'arriver... parce qu'on va y arriver, hein. On ne va pas laisser la Terre mourir de chaleur ou
vous
mourir
citez,
de faim
oui,
ou de froid.
Bon. Changer les transports, bon. Manger moins de viande, moins gaspiller. Absolument. 60% de la nourriture
on va,
mondiale
on
est gaspillée.
On va arriver à l'automne, on va arriver à l'hiver. Il suffirait de réduire d'un degré l'ensemble des températures des appartements. Il suffirait de mieux isoler tous les appartements en construction pour que déjà ce soit une importance. Mmh. Et puis, il y a l'eau. Le grand problème, c'est l'eau. Dans 10 ans, il n'y a plus d'eau. Mmh. Dans 10 ans, il n'y a plus d'eau à Istanbul. Dans 10 ans, l'Angleterre va manquer d'eau. Et ce livre est né de ça. C'est une histoire hallucinante. J'ai un de mes annonceurs qui me convoque à Londres et qui me dit, j'arrive d'Istanbul. Ils ont une idée incroyable. Il faut que tu ailles voir. Ils sont aperçus que 80% des ménagères turques rincer leur linge
pré-laver.
Avant de le mettre dans la machine à laver.
Et vous y êtes allé, vous avez fait une campagne publicitaire qui a permis de réduire le gaspillage. Je suis désolé, on va devoir en rester là parce qu'on est un petit peu pris par le temps, Jacques Séguéla, je suis vraiment navré. En tout cas, on retrouve voilà, votre expérience, tous ces gestes du quotidien qui peuvent nous aider à réparer la planète. On ne change pas le monde, on le répare. C'est cette phrase d'Albert Camus qui ouvre votre livre. Merci Jacques Séguéla.
Aimons la Terre et elle nous le rendra.
Merci d'être venu nous parler d'écologie. Votre livre « Ne dites pas à mes filles que je suis devenu écolo, elles me croient publicitaire » paraît aux éditions Coup de cœur. Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend, Théo Manval.
À suivre, une chanson dans la tête. Carla Bruni sort un nouvel album et Fabien Lecoeuvre a beaucoup de choses à nous raconter sur son parcours et ses rencontres. Autant couleur, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Théo Manval. Une chanson dans la tête.
C'est votre moment musical, comme chaque week-end, une chanson dans la tête avec notre spécialiste de la chanson française. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Théo et bonsoir à tous.
Hier, Carla Bruni a donc publié un tout nouvel album. Elle n'avait pas sorti, Fabien, de chansons inédites depuis 7 ans.
Exactement Théo, depuis 2013, la chanteuse n'avait pas enregistré de nouvelles chansons inédites, puisqu'en 2017, son 5e album Friend Touch était un disque de reprise de grands standards internationaux, rock et disco. Alors, ce nouvel album, intitulé tout simplement Carla Bruni, sorti hier, entièrement réalisé par Albin de la Simone, était donc très attendu. Et dès le mois de juillet dernier, Carla avait révélé un premier
quelque
extrait.
Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant.
Avant de se reconvertir dans la chanson, c'est d'abord en tant que mannequin que Carla Bruni s'était fait connaître. Elle avait 19 ans.
Tout à fait Théo, à 19 ans, Carla Bruni a mis fin à ses études d'architecte pour devenir mannequin au sein de l'agence parisienne City Models. Ainsi, de 1985 à 1997, Carla Bruni a été une top modèle star qui a défilé pour les plus grandes maisons de couture comme Chanel, Versace, bien sûr, Yves Saint Laurent, et qui a fait la une des plus grands magazines de mode, posant pour les plus célèbres photographes de la planète. Elle est même devenue l'égérie de la marque de lingerie que vous connaissez, Victoria's Secret.
Et puis en 99, c'est une rencontre qui va décider de sa reconversion.
Mais bien sûr, Théo, à l'approche de la trentaine, Carla Bruni décide de préparer sa reconversion et se tourne tout naturellement vers la musique. Alors depuis très jeune, elle a baigné dans cet univers entre une maman, Marisa, bien sûr pianiste, concertiste, et un papa, Alberto, qui au-delà d'être un grand industriel italien, est aussi compositeur d'opéra. Alors en 1999, Carla rencontre Julien Clerc au cours d'un dîner et lui confie qu'elle écrit des chansons. Il demande à les voir. Quelques jours plus tard, Carla lui envoie donc un texte intitulé « Si j'étais elle ». Julien Clerc craque pour ses paroles sur lesquelles il compose une musique. L'artiste choisit justement cette chanson comme titre de son nouvel album et demande à Carla de lui écrire 5 autres titres. L'album « Si j'étais elle » est un beau succès et se vend à plus de 300 000 exemplaires.
Si j'étais elle, je saurais dire tant de ces choses, tant de ces mots qu'elle ne dit pas.
Magnifique texte et magnifique mélodie. Et puis Fabien, Carla Brunier va franchir le pas en devenant ensuite elle-même interprète de ses chansons.
Effectivement, reconnue pour ses qualités d'auteur, Carla décide de franchir le pas en devenant à son tour une interprète. Pour cela, elle se rapproche de son idole de toujours, Louis Bertignac, devenu son meilleur ami après avoir été un temps son amant 15 ans plus tôt. Bertignac va réaliser justement, enregistrer et mixer les 12 titres du premier album de Carla, dont ce fameux « Quelqu'un m'a dit, créé à la boule ». Carla était partie en week-end là-bas avec un début de texte et elle cherchait une musique. Comme elle souffrait d'un terrible rhume, elle est restée dans sa chambre et avec sa guitare sèche, elle a trouvé une musique lente pour accompagner son début de texte. De retour à Paris, elle termine les paroles avec son ami le célèbre réalisateur Léo Scarrax, bien sûr, connu notamment pour son film « Les Amants » du Pont-Neuf. Et avec sa voix sensuelle, rauque, Carla Bruni fait de cette chanson douce et romantique un très beau succès salué aussi bien par les critiques que par le grand public. L'album se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires, Théo, vous imaginez ?
Ouais,
et bien sûr, et vaudra à Carla bien sûr, la victoire de la musique de l'année 2003 dans la catégorie artiste féminine de l'année.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud.
2 millions d'exemplaires vendus de cet album. Et dans ses chansons, Carla Bruni n'hésite pas à se révéler, à parler d'elle-même et puis des hommes aussi de sa vie.
4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma.
Absolument, Théo, vous avez raison. Sur son premier album, Carla Bruni consacre une chanson pleine de sensualité à Raphaël Enthoven, avec qui elle partage alors sa vie, et le père de son fils Aurélien, né justement en juin 2001. Mais il faut quand même, Théo, que je vous raconte la rencontre amoureuse avec ce merveilleux philosophe Raphaël Enthoven.
Oui, c'est rocambolesque.
Vous allez voir, hein. Oui, tout à fait, ça ne s'invente pas. En fait, au départ, Carla Bruni vit avec Jean-Paul Enthoven, le père de Raphaël, et tous les deux sont invités chez Bernard-Henri Lévy à Marrakech pour le nouvel an en 2000. Bien sûr, à ce réveillon, il y a Raphaël Enthoven, car c'est le fiancé de la fille de BHL. Vous suivez jusque-là,
oui,
hein.
Jusque-là, on suit.
Justine Lévy. Eh bien, et là, bien sûr, l'impensable, l'inimaginable arrive. Ce soir-là, coup de foudre entre Raphaël et Carla. Et c'est à Paris que les deux amoureux vivront leur belle histoire d'amour. Je n'ose même pas penser à la réaction de Jean-Paul Enthoven et de Justine Lévy.
Oui, c'est raconté aussi dans un livre par Raphaël Enthoven en ce moment. Et je crois que ça n'a pas été simple, effectivement. Ah, quelle histoire.
On peut le dire, oui.
Et puis sur son 4e album en 2013, Carla Bruni dédie une chanson à un autre des hommes de sa vie, le président de la République.
Vraiment, il a tout bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. Mon Raymond, il a canon, c'est de la bombe.
Et oui, Mon Raymond, une chanson inspirée par Nicolas Sarkozy que Carla Bruni épouse le 2 février 2008 alors qu'il était en fonction à l'Élysée. Je parle devant donc Jacques Séguéla qui a contribué à la rencontre lors d'un dîner.
Qui est resté en studio pour vous écouter, effectivement. Merci beaucoup Jacques Séguéla encore. Merci Fabien Lecoeuvre d'avoir évoqué le flamboyant destin de Carla Bruni à l'occasion donc de cette sortie de son nouvel album. Je rappelle qu'on peut réécouter ce récit, ces anecdotes sur le podcast Europe 1.
Bah c'est toujours un plaisir Théo, puis on se retrouve demain et je vous parlerai d'une autre artiste très appréciée des Français, Lynn Renaud.
Avec plaisir.
Et à l'occasion de la sortie de son livre intitulé En toute confidence.
On a hâte de vous retrouver. Merci Fabien Lecoeuvre. À demain.
Europe Soir Weekend. Théo Manval.
Dans un instant avec Philippe Legrand, l'écrivain Didier Van Kovelaert pour un saut dans le passé. Ne bougez pas.
Europe Soir Weekend. Théo Manval. Une date. Une histoire.
Vous le savez, chaque samedi sur Europe 1, juste avant 20h, une personnalité vient avec nous se souvenir d'une date, d'un fait qui a marqué l'actualité. Ce soir, pour Europe 1 et Paris Match, on vous retrouve, Philippe Legrand, avec votre invité. Il est écrivain. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. Retour en 2015, année sombre, année solidaire, année de réforme du Code civil. Les animaux y sont en vedette. Bonsoir Didier Van Kovelaert.
Bonsoir.
49 livres et presque autant de prix littéraires, vous êtes l'un des auteurs français les plus inspirés, les plus prolifiques, les plus récompensés. Vous avez choisi ce soir, dans cette année 2015, le 17 février, au cœur de l'hiver, la loi change le statut des animaux. À l'époque, sur ce dossier, l'avocat Xavier Baquet s'exprimait sur Europe 1 au micro de Brigitte Rinaldi.
Ça ne se reproduise plus, que d'autres animaux ne souffrent plus. Et à côté de ça, on travaille pour changer le statut juridique de l'animal. Voilà, on ne fait pas d'opération coup de poing, on préfère un travail beaucoup plus en profondeur qui fait avancer les choses.
Didier Van Kovelaert, pourquoi cette date du 17 février 2015, le choix de cette réforme du code civil qui change le statut des animaux?
Ça a été un de mes combats, c'était un combat d'écrivain, on l'a un peu oublié aujourd'hui, lancé par la Fondation 30 millions d'amis. Et à l'époque, nous faisions le tour des plateaux avec mes amis Eric Orsena, Luc Ferry, entre autres, pour rappeler simplement que si l'on écoute le code civil, l'animal est un meuble à l'époque. Et donc, lorsqu'on poursuit les gens pour maltraitance animale, en fait, juridiquement, ça pourrait être cassé et ne pas tenir, puisqu'on a le droit de briser un meuble. Donc, ça a été une vraie révolution. C'était très dur à faire passer. Le président Hollande donc, ne voyait pas l'urgence. Et puis, c'est passé à l'Assemblée, grâce un peu aux frondeurs. Et ça a été une très belle victoire. Et je voulais qu'on en reparle, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les violences, quand les chevaux, par exemple, quand on voit cette bestialité humaine qui partout reprend du poil de la bête, si j'ose dire, et que par ailleurs, par rapport à la pandémie qu'on traverse, il faut se rappeler que le seul test totalement fiable, c'est celui que l'on doit aux chiens. La preuve est faite, il faut juste le savoir. On fait respirer une molécule de Covid-19 à un chien, et après, il la mémorise. Et de la même manière que les chiens reconnaissent la drogue, ont 100% de réussite sur le dépistage du cancer de la vessie ou de la prostate. C'est la même chose.
La phrase d'Didier Van Kovelaert, qui est dans ce texte du 17 février 2015, est très claire. Hein. Être doué de sensibilité, c'est la formule.
Mm-hmm.
Une formule qui, au fond, va dans le sens de ce que vous dites.
Oui, puis c'est le double sens du mot sensibilité qui est intéressante à la fois. Évidemment, si on lui fait mal, il souffre. Et puis, la sensibilité, voire l'hypersensibilité affective, et tout ce que l'animal est capable de faire... pour d'autres animaux, comme pour des êtres humains, quelque chose dont il ne faut jamais oublier dans ces temps où l'homme, de plus en plus, est un loup pour l'homme.
Vous êtes proche de Brigitte Bardot, elle rentre dans ce combat, forcément?
Alors, elle l'a soutenue de son côté, on n'a pas travaillé ensemble là-dessus, mais voilà, elle a fait énormément pour la cause animale, et il faut continuer par tous les moyens, ne serait-ce que... écouter les animaux, savoir ce qu'ils ont à nous proposer. C'est le cas, bien sûr, je m'occupe beaucoup des chiens d'aveugle. Quand j'ai écrit Jules et le retour de Jules, bien sûr, ça a fait encore mieux connaître le fonctionnement et la psychologie de ces chiens d'aveugle. Et j'ai été un des premiers à parler des chiens détecteurs d'épilepsie, et aujourd'hui qui sauvent des vies. Et les chiens n'ont pas fini de nous surprendre. On le voit bien aujourd'hui avec le Covid.
Didier Van Kovelaert, justement, on y vient. L'inconnu du 17 mars, c'est votre nouveau livre, votre actualité littéraire aux éditions Albin Michel. On en parle comme d'un conte philosophique. J'ai envie de dire aussi un conte de fées dans cette époque en particulier, dans cette époque de la pandémie.
Ça commence le jour du confinement, et le confinement est vu par le regard d'un sans-abri. Alors déjà, on a un décalage intéressant, parce que ce sans-abri, qui, comme il le dit lui-même, c'est pas un SDF de souche, il a eu une vie avant, il a été prof de lettres, il a été brisé par une injustice épouvantable, et il a entamé une sorte de suicide au long cours sur la voie publique, en lisant un livre par jour, en buvant un litre le soir. Et cet homme a gardé tout son détachement, tout son humour, et ce qu'il voit, justement... quand il voit ces gens se hâter chez eux avec leur stock de pâtes et de papier toilette, et que dans leur regard, il se sent tout à coup comme une sorte de privilégié, car il est, lui, un droit du sol. Apparemment, il a le droit de rester confiné à l'air libre. Et c'est un premier changement par rapport à tout ce qu'on ressent de cette époque. Et puis, il va lui arriver, la plus grande aventure de sa vie, c'est-à-dire que en voulant échapper quand même aux forces de contrôle qui arrivent avec cette espèce de perceuse là, qui est le thermomètre frontal, pour voir si ceux qui ont 37,5, eux, il faut vraiment les escamoter, sous une apparence de jogger distrait, il traverse vers le champ de Mars, et là, il se fait renverser par une voiture, et c'est une reconquête de...
Un choc et un coup de foudre à la fois.
Oui, est-ce que cette femme...
Il ne faut pas tout dire.
Non, est-ce que cette femme qui l'a renversée, puis qui la charge dans sa voiture après, pour des raisons qu'on découvrira dans le livre, est-ce que ça a été son premier amour d'adolescent? Est-ce que c'est une manipulatrice? C'est une sorte de fée? C'est une créature venue d'ailleurs? Un produit de son imagination? Ou vraiment, vraiment celle qui a la clé pour l'aider à trouver la solution contre ce virus qui empoisonne la planète.
Et Didier Van Kovlark, en tournant les pages de l'inconnu du 17 mars, on entend quelque part, comme ça, venu de loin, une chanson, peut-être La maladie d'amour de Michel Sardou.
Peut-être la bande originale de ce livre, on dirait.
Merci Didier Van Kovlark d'être venu sur Europe 1 ce soir.
Merci à vous.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
L'écrivain Didier Van Kovlart au cœur d'une date, une histoire avec Philippe Legrand en clôture de ce 18-20 d'Europe 1. On se retrouve demain pour de nouvelles heures d'infos, de débats, de culture. J'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Merci à Rémi Duprat à la réalisation de cette émission, Naïma Benchemann et Valérie Danan qui m'ont aidé à la préparer. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1 Sport avec Jean-François Pérez dans un instant. Mais d'abord, Lénaïque Monnier pour le retour de l'info.